science, la parole.
Merci Maurice pour ces très gentils mots d'introduction que je compléterai par des remerciements puisque c'est l'usage, mais des remerciements plus personnels puisque je ne crois pas qu'il y ait de hasard. Et tu as juste omis de préciser qu'il se trouve qu'on s'était connus à l'autre bout de la France, dans une région où on connaît bien ces froids polaires, qui est la Lorraine, où j'étais en poste, jusqu'à ce que les hasards des carrières me fassent arriver au 1er septembre à Poitiers. Mais c'est là qu'il n'y avait pas de hasard, c'était parce qu'il fallait qu'on puisse poursuivre des rencontres et des travaux qu'on avait entamés il y a une vingtaine d'années. Quelques mots de présentation en ce qui me concerne. Donc, je suis professeur de droit et effectivement j'ai travaillé initialement sur des questions de droit médical dans le cadre de mon travail de thèse. Et forcément quand on s'intéresse à la santé, à l'action des soignants, eh bien les préoccupations vont du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et on doit forcément à un moment ou à un autre analyser ces questions de fin de vie. Et puis ensuite, on élargit son champ de recherche à l'ensemble de l'être humain dans tous les compartiments et tous les prolongements de sa vie. À titre préliminaire, je souhaiterais qu'on revienne sur la notion de droit et d'éthique, puisque dans les questions qui vont nous préoccuper ce soir, très régulièrement, nous avons des comités d'éthique, des regroupements, des conseils d'éthique qui abordent cette thématique. Et pour essayer de redéfinir la différence entre l'éthique et le droit, qui sont néanmoins souvent amenés à se rencontrer, je dirais que le droit est ce qui définit le permis et l'interdit. La frontière entre le licite, le permis, et l'illicite qui est interdit à un titre ou à un autre. L'éthique, quant à elle, se pose des questions d'un autre ordre, qui ne sont pas de la même nature, puisque l'éthique aborde de manière pluridisciplinaire la question du souhaitable et du non souhaitable. Ce qu'il faut essayer d'atteindre et ce qu'il faut éviter d'obtenir, c'est le champ de la réflexion éthique qui s'entend à la fois au niveau macro-éthique, qu'est-ce qui est bon pour une société, que faut-il souhaiter à tout niveau, en matière de santé, mais aussi en matière démographique, en matière de parité homme-femme. Vers quoi faut-il tendre ? Macro-éthique. Et puis, au niveau micro-éthique, au niveau du rapport individuel, que faut-il souhaiter pour telle famille, pour telle personne, pour tel individu, éventuellement en fin de vie ? La grosse différence, c'est bien évidemment le caractère pluridisciplinaire de tout débat éthique, qui nécessairement implique qu'il y ait des techniciens du domaine dont on se préoccupe, mais aussi des philosophes, des juristes, éventuellement des croyants, des non-croyants. Ça, c'est la réflexion éthique. Dans le domaine du droit, eh bien, on n'est pas dans le pluridisciplinaire, mais dans le monodisciplinaire, puisqu'il faut, pour pouvoir essayer de s'approcher de cette frontière entre le licite et l'illicite, le permis et l'interdit, eh bien, avoir un tout petit peu de culture juridique sur les textes et leur application par les tribunaux. On pourra éventuellement, en tant que juriste, apporter de temps à autre notre regard dans le cadre de débats éthiques, mais ce soir, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'apporter le regard du juriste sur les questions de fin de vie. C'est le thème de la conférence, fin de vie, que dit le droit ? Et ensuite, éventuellement, on pourra, au titre des questions, bien évidemment, aborder d'autres approches. Faut-il modifier à l'avenir la législation française ? Est-elle critiquable ? Est-elle complète ? Voilà des questions prospective qu'on pourra se poser ensuite à la fin, mais on va déjà essayer, si vous le voulez bien, de faire une sorte de photographie, de panorama de ce qu'est cette frontière du permis et de l'interdit aujourd'hui en France. Dernier point d'introduction, je voudrais insister sur un point qui ne m'était pas apparu aussi clairement au départ, mais qui a été mis en lumière par d'autres citoyens qui s'intéressent non pas à la fin de vie, mais à l'après-vie, y compris sous l'angle juridique, mais aussi éthique. Et je pense aux crématistes. Les crématistes sont des gens qui font partie d'associations de crémation. Vous allez me dire, quel rapport avec notre sujet ? Eh bien, vous allez voir qu'il y en a un, puisque le débat sur la question du rapport de l'homme à sa vie, à sa liberté, à sa destinée et à son corps finissant, à sa vie finissante, puis juste finie, eh bien, ce débat éthique, puis politique, puis juridique, a précédé d'une centaine d'années, fin du 19e siècle, les débats que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés, et pas seulement en France, dans l'ensemble des pays européens. En effet, à la fin du 19e siècle, se sont créées des associations de crématistes, c'est-à-dire de partisans d'un autre mode de sépulture, et qui ont beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, dans le but de faire évoluer les lois. Et en France, une grande loi est intervenue en matière de sépulture, c'est la loi de 1887, sur la liberté des funérailles, permettant depuis, en France, d'avoir différents types de sépultures. Pourquoi est-ce que je fais allusion aux crématistes ? Eh bien parce que ils ont toujours eu une démarche militante, philosophique, parfois politique, et qui a abouti à faire bouger le droit, à faire changer le droit. Et je crois que c'est important à deux égards de faire référence à eux. D'abord, parce que sur le plan stratégique, ils ont commencé par quelques-uns, par quelques réflexions personnelles, puis ils ont fédéré, puis ils ont communiqué avant de convaincre les politiques, lesquels, en tant que parlementaires, peuvent et sont les seuls à pouvoir faire bouger la loi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et il est plus anecdotique, mais pour moi, il est très parlant, c'est que en France et en Belgique, ils ont pris comme, non pas comme devise, mais comme oriflamme, quand ils ont, pour des crématistes, oriflamme, c'est peut-être un petit peu tendancieux, mais ils ont pris comme leitmotiv, je dirais, cette idée, cette formule choc, qui est que pour pouvoir réfléchir sur la mort, il faut être des bons vivants. Et les crématistes sont, pour ceux qui en ont déjà fréquenté, sinon je vous encourage à les rencontrer, des gens qui sont toujours charmants et toujours bons vivants dans tous les sens du terme. Parce que parler de la mort, ça ne signifie pas forcément en parler en termes douloureux, pénibles. On peut parler de la souffrance sans souffrir soi-même. Et on peut surtout être sérieux sans être triste. Et dans bon nombre d'institutions, je n'en citerai aucune pour ne pas faire de jaloux, on confond parfois être sérieux et être triste. Et on va essayer ensemble, si vous le voulez bien, de parler de la fin de vie de manière sérieuse, sans forcément prendre des mines d'enterrement, si je peux me permettre cette image. Alors sur le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la situation historique qui prévalait jusqu'à la fin du XXe siècle en France et d'ailleurs en Europe et dans le monde. Pour le médecin, pour les soignants de manière générale, confrontés à la fin de vie, depuis Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du XXe siècle, la situation est globalement figée. Le médecin qui est confronté à un malade en fin de vie est confronté à ce qu'on peut appeler une sorte de triangle infernal ou maudit. C'est-à-dire qu'il a trois possibilités, trois portes, et elles sont toutes mauvaises. Trois portes pour le médecin face au mourant, face à cette phase de celui qui n'est pas encore dans l'agonie, mais qui est déjà condamné par sa pathologie ou par son très très grand âge, sa situation. Le médecin a trois possibilités, et elles sont toutes mauvaises sur le plan du droit. Et ce, dès les règles de droit romain et même antérieures. Première possibilité. Le malade étant condamné, le médecin n'ayant aucune médecine, aucun médicament à lui apporter, autant tuer ce malade. Et là se pose bien évidemment la question de l'homicide volontaire. Eh bien, l'homicide volontaire, en droit français comme dans toutes les autres législations, qu'on appelle un meurtre, eh bien, l'homicide volontaire est punissable. C'est un crime sanctionné par le code pénal. Peu importe le mode opératoire. Peu importe la façon de tuer quelqu'un, que l'on le tue à main nue, avec une arme ou avec des produits, ça n'a pas d'influence sur la qualification juridique qui est le fait d'accomplir un acte mortel et de faire passer un être humain de vie à trépas, peu importe la manière de le faire. Peu importe les mobiles. Les mobiles, c'est-à-dire ces projets personnels, ces visions personnelles. Dès lors que, objectivement et intentionnellement, on a donné la mort à quelqu'un, peu importe que ce soit par cupidité, par vengeance, par jalousie, par amour, par compassion, ou par bêtise, ou par jeu, peu importe. Le mobile est indifférent au droit pénal. Et donc, dès lors que quelqu'un a intentionnellement donné la mort à autrui, il y a homicide volontaire. Le médecin qui, pour délivrer, pour accélérer, pour faciliter, peu importe le mobile, donnerait la mort à quelqu'un est susceptible d'être poursuivi pour meurtre, voire si c'est prémédité pour assassinat, ce qui, jusqu'en 1981 en France, est un crime passible de la peine de mort. Donc, le médecin ne peut pas tuer celui qui est pourtant condamné par sa pathologie. Alors, il lui reste deux autres possibilités. Deuxième possibilité, eh bien, continuer à soigner. Bien que les soins ne puissent plus éviter ce pronostic fatal à plus ou moins brève échéance. Là encore, c'est une mauvaise solution. Mauvaise solution puisque, historiquement et juridiquement, si le médecin peut donner des médicaments, faire des actes sur le corps, s'il a juridiquement la permission de porter atteinte au corps d'un malade, ça n'est que dans un certain nombre de conditions prévues par la loi. Parmi les conditions, il faut qu'il ait un titre, qu'il soit titré, un diplôme, une inscription à l'ordre. Il faut le respect du consentement, mais ça ne suffit pas. La légitimité de l'action d'un médecin ou de tout autre professionnel de santé sur le corps d'un malade est fondée sur un titre, un consentement et un but, qui est le but curatif. Le médecin n'est légitime à porter sa main, son bistouri ou à ne donner une drogue, un médicament à un individu qui le lui demande que parce qu'il a un titre, un consentement du soigné et un but curatif. C'est-à-dire un but d'améliorer ou de tenter d'améliorer la santé personnelle du soigné. Faire quelque chose sans ce but curatif tombe sous le coup de la loi. Le médecin, depuis toujours, qui ferait sur un malade un geste, un acte, ou lui donnerait un médicament sans but curatif, sans avoir pour but d'améliorer sa santé, serait un délinquant, auteur de violence volontaire. Et juste un exemple pour montrer l'application de cette condition, les médecins qui, avant que la loi de 1988 le permette, faisaient de l'expérience clandestine sur le corps des malades, qui testaient des produits plus ou moins scientifiquement, mais qui utilisait le corps du malade en lui donnant des produits qui n'avaient pas un but curatif, puisque ce n'était pas pour le soigner, c'était pour tester une molécule, ces médecins tombaient sous le coup de la loi pénale. Pour le pire du pire, les médecins nazis qui, pendant la guerre, se sont servis de détenus concentrationnaires, qui pour certains étaient voués à la mort certaine, et qui, profitant des derniers jours ou dernières semaines avant le faux crématoire, ont testé sur eux des produits, donc sans but curatif, pas pour améliorer leur santé, mais juste pour tester des produits, ces médecins ont été condamnés en 1947 à Nuremberg, et pour certains, ils ont été condamnés à mort pour des actes à but non curatif. Donc, faire sur le corps de quelqu'un quelque chose qui n'a plus d'utilité ou pas d'utilité pour lui était un acte de violence volontaire. Donc le médecin, première solution, ne pouvait pas tuer le mourant, le condamné à mort. Il ne pouvait pas s'acharner, et je lâche le mot, puisque l'acharnement thérapeutique était déjà, est tombé sous le coup de la loi pénale, depuis 1810 en France. Pas comme on nous le dit parfois depuis 5 ans ou depuis 6 ans. L'acharnement thérapeutique, acte sans finalité curative, était une violence volontaire susceptible d'être condamnée par le code pénal. Il ne pouvait pas tuer, il ne pouvait pas continuer, puisque ça n'avait plus d'utilité, plus de sens. Troisième porte, troisième point du triangle infernal ou maudit, le médecin pouvait être tenté de dire j'abandonne, je laisse tomber et je laisse ce malade retourner chez lui, qu'il aille mourir chez lui. Je ne peux pas le tuer, je ne peux pas le soigner, donc je laisse tomber. Et bien ça non plus, il ne pouvait pas, juridiquement parlant, pénalement parlant, puisque la loi pénale française, depuis 1810, oblige, dès lors que quelqu'un est en situation de péril, oblige à lui porter secours. C'est la non-assistance à personne en péril. Et j'insiste sur le mot péril. Nous verrons que beaucoup de gens en parlent en parlant de non-assistance à personne en danger. Ça n'est pas la même chose. Danger et péril, j'y reviens dans une seconde, mais 223.6 du Code pénal, toute personne qui est confrontée à quelqu'un qui est en péril a une obligation de lui porter secours, soit personnellement, soit en provoquant un secours, directement ou indirectement. Mais on ne peut pas abandonner quelqu'un qui est en situation de péril vital imminent. On ne peut pas. Et si on le fait, on est reprochable, c'est un délit, c'est 5 ans d'emprisonnement à la clé pour non-assistance à une personne en péril. Une question s'est posée devant les tribunaux qui est de savoir si le secours que l'on doit à cette personne en péril doit être un secours efficace, Ou est-ce que, même sans secours efficace, il faut quand même faire quelque chose? La situation qui a permis d'expliquer ça, elle est la suivante. On est dans les années 60, dans la région de Chamonix. Une colonne de montagnards est partie sur un glacier. Quand il y a un orage en montagne, il y a des gros soucis et la colonne est en perdition, bloquée par les intempéries, un peu comme ce soir à Poitiers, sauf que c'est en très haute montagne avec du blizzard, etc., etc. Bref, on a des gens qui sont en situation extrêmement compliquée. Et de Chamonix, on essaie d'envoyer on imagine des hélicos, mais la météo ne le permet pas. On imagine, il n'y a plus de communication possible. On envoie une colonne de gendarmes de haute montagne. On ne sait pas trop où sont les naufragés de la montagne. Quand, à un moment, dans la nuit, deux gendarmes encordés trouvent la colonne de montagnards. Ils sont tous morts, sauf deux. Un qui est inconscient, mais vivant, et l'autre qui est encore conscient, mais qui est franchement extrêmement mal. Ils les trouvent, ils essayent de les réchauffer, de leur parler, etc. Mais eh bien, ils ne peuvent pas les transporter, ils ne peuvent pas les descendre dans la vallée, la météo est trop mauvaise, donc ils décident, ils leur laissent un ensemble de nourriture, des couvertures, et ils redescendent dans la vallée, en ayant bien conscience que le temps de redescendre, la mort aura fait son effet. Et c'est ce qui se passe, ils redescendent dans la vallée, quand deux jours plus tard, la météo s'éclaircit, un hélico arrive, et toute la colonne est décédée. Et là, il va y avoir, quelques mois plus tard, un procès devant le tribunal correctionnel de Chambéry, procès qui a été inspiré par la plainte des familles des montagnards, plainte pour non-assistance à personne en péril. Les arguments des gendarmes vont être les suivants, en disant, mais c'est pas nous qui les avons tués, c'est le froid, c'est la situation, et on ne pouvait rien faire d'utile, on ne pouvait pas les sauver. On aurait pu essayer de les prendre sur notre dos, mais on se serait nous-mêmes mis en péril, on serait peut-être nous-mêmes morts en essayant de les transporter. Un était déjà à l'article de la mort et l'autre était intransportable. Donc on ne pouvait rien faire. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir porté secours. Et là, le tribunal correctionnel a eu une réflexion assez intéressante qui a été de dire que certes, on pouvait pas, tout le monde est d'accord, on ne pouvait pas leur sauver la vie. Mais le secours que l'on doit à celui qui est en péril n'est pas forcément un secours efficace. Ça peut être également le secours moral qui a été refusé, en tout cas un être humain qui était et qui savait qu'il allait mourir et qui a vu les êtres humains qui étaient venus à son secours partir. La dernière chose qu'il a vue, c'est un dos d'homme qui s'enfuit. C'est un secours moral également que l'on doit. C'est aussi une main tendue, une présence ou un regard qui est cette assistance à personne en péril. Donc, tuer, c'est pas possible, c'est interdit, c'est un meurtre. Continuer à soigner celui qui va mourir, c'est interdit, c'est plus utile, c'est de l'acharnement, c'est des violences. Et l'abandonner à son triste sort, lui tourner le dos, c'est interdit, c'est une non-assistance à personne en péril. Et pendant des siècles, le médecin était confronté à ce triangle. Il se cognait à chacune des trois extrémités de ce triangle, jusqu'à ce que, fin du XXe siècle, années 60, 70, apparaissent ce qu'on a tous cru être la panacée qui allait enfin résoudre les affres, répondre aux affres des médecins, les soins palliatifs. Les soins palliatifs ont longtemps laissé penser qu'on avait enfin répondu et trouvé la solution. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tuer, bien évidemment, mais de soulager la douleur, combat contre la douleur. Il ne s'agit pas de s'acharner puisqu'on abandonne et on laisse tomber la pathologie ou les pathologies principales, mais on continue à soigner tout ce qui est pathologie secondaire et associée. C'est du vrai soin et pas que de l'accompagnement. Et on n'abandonne pas puisque, indépendamment du soulagement de la douleur, des soins, des pathologies associées, eh bien, on a un accompagnement par des soignants, mais aussi par des accompagnants bénévoles, et aussi une aide aux aidants familiaux, etc., etc. Donc, on s'est dit, ça y est. Et parmi les quelques écrits, y compris de juristes, y compris de ma plume, dans les années 96-17, juste avant la loi du 9 juin 99, qui a permis de mettre dans la loi ce principe d'accès aux soins palliatifs pour les soignés en France, eh bien, on en était tous extrêmement satisfaits en disant, voilà, maintenant, on va permettre de répondre aux besoins de soins d'un mourant sans avoir à procéder à une aide active que l'on appellera par facilité euthanasie. Beaucoup de juristes pensaient que la question de l'euthanasie était réglée par l'arrivée des soins palliatifs. Sauf que, un certain nombre d'affaires et de demandes ont montré que, il n'en était rien, et que même si une bonne partie des situations de fin de vie étaient faciles, ou en tout cas pouvaient être organisées avec les soins palliatifs, on n'avait pas réglé tous les cas. Et bien évidemment, vous imaginez, pour ceux qui connaissent bien cette question, qu'on va parler de Diane Préty, de Chantal Sébir, de Vincent Imbert et d'autres. Avant cela, je voudrais encore donner un éclairage juridique, historique lui aussi, le tout nous permettant, je crois, de connaître et de mieux comprendre le droit contemporain. Il y a encore un éclairage juridique à apporter qui est ce que dit le droit du suicide et de la question de l'homicide de soi-même. Le droit français sur le suicide a bien changé au cours des siècles, puisque jusqu'à la Révolution, le suicide est un crime. Et c'est assez logique, puisque le droit pré-révolutionnaire est un droit qui est le droit d'un État dans lequel on a un droit divin. Et une fusion complète de la législation et de la religion. Or, pendant tout le Moyen-Âge en France, celui qui porte atteinte à sa propre vie, le suicidant, est un criminel, puisqu'il porte atteinte à la fois aux intérêts de son roi, en privant son roi d'un sujet, d'un contribuable, d'un potentiel soldat, et il porte atteinte à la religion, à Dieu, puisqu'il intervient dans le projet divin, dans le destin divin, en se mettant au même niveau que Dieu, puisque normalement, nul ne connaît ni le jour ni l'heure, si ce n'est Dieu. L'homme n'est que usufruitier de son corps, c'est Dieu le nu propriétaire. Et celui qui se suicide, il heurte, il transgresse à la fois la loi de Dieu et la loi du roi. Donc, pendant tout le Moyen-Âge, le suicide est un crime. Au titre de quoi ? Au titre de l'homicide. On punit l'homicide. Que ce soit l'homicide d'autrui ou l'homicide de soi-même, techniquement, c'est le même crime. Alors me direz-vous, certes, c'est un crime, mais comment le condamne-t-on ? Comment le poursuit-on ? Il y a deux cas. Quand l'individu s'est réussi, quand il s'est suicidé, on va faire deux choses. On va faire un procès à son cadavre, d'abord. On va faire comparaître le cadavre. On nomme même un curateur au cadavre pour qu'il puisse s'exprimer et être, en gros, son avocat. On fait un procès au cadavre avec deux sanctions possibles. Première sanction, une sanction contre le cadavre. En cas de condamnation et de conviction qu'il s'est homicidé lui-même, privation de sépulture chrétienne, et même dans certains cas, privation de sépulture tout court. Exposition aux éléments naturels, on l'accroche dans un arbre, l'idée est de dissuader la population, de l'imiter. Mais la deuxième sanction est de dire, le cadavre, à la limite, il est mort, peu importe, c'est choquant, mais lui, ça ne concerne plus. Deuxième sanction, extrêmement redoutable jusqu'en 1789, confiscation générale du patrimoine du criminel. On confisque son patrimoine. Son lopin de terre, sa boutique, son échoppe, on confisque au profit du seigneur ou du roi. Ce qui est catastrophique pour les proches. Bien évidemment, pour les proches, c'est la ruine. Les enfants du paysan sont ruinés, sont expropriés par confiscation si jamais le paternel se suicide. Or, les historiens nous le montrent bien, et les historiens du droit ont un certain nombre de procédures à notre disposition, il y a des suicides dans les campagnes et dans les villes en France à l'époque. Dans la plupart des cas, les familles, quand ça arrive, essayent, pour éviter le procès, la procédure et tout ce qui s'ensuit, essayent de masquer les choses. On a des techniques. Quand on retrouve le grand-père pendu dans la grange, on le dépend vite fait, on le met dans un lit, on lui met un petit foulard, et puis on va parler de crise d'apoplexie ou de morsure de vipère. Si personne dans le voisinage n'a rien vu, on arrive à dissimuler. Mais il y a des cas dans lesquels ce n'est pas possible de dissimuler aux yeux du public, du lieutenant criminel, du sénéchal. Donc, il reste un seul argument, c'est de plaider la folie. Parce que si l'individu est fou, alors il échappe à la justice pénale. Bref, on ne va pas en faire des tonnes, mais c'est un point important. Et quand il s'est raté, quand il a tenté de se suicider mais qu'il ne s'est pas réussi, eh bien à l'époque, ça peut vous paraître cocasse, mais c'est assez logique pour le droit de l'époque, on va lui faire un procès pour tentative d'homicide, puisqu'il a tenté de se tuer. Et s'il est déclaré coupable, il pourrait être condamné à mort. C'est comme ça, c'est le droit médiéval. Le suicide, jusqu'à la Révolution, est un crime. La Révolution, c'est un des points importants, encore un qui nous vient d'inspiration anglo-saxonne, puisque beaucoup des idées sur le plan du droit des révolutionnaires viennent d'outre-Manche. Les Anglais ont depuis longtemps cessé toute incrimination et répression de suicide. Les Français, dès le code pénal de 1791, parlent de l'homicide d'autrui. On ne peut plus poursuivre en France que l'homicide d'autrui. Les actes sur soi-même sont exclus du code pénal français depuis cette époque-là. Aujourd'hui encore, bien évidemment, on est sous ce régime. Le suicide n'est pas une infraction pénale, n'est plus une infraction depuis la Révolution. Celui qui se suicide ou qui tente de se suicider ne peut pas se le voir reprocher. Attention aux termes qu'on emploie. Parfois, certains nous interrogent en nous demandant si on peut parler d'un droit au suicide. Non, non, il n'y a pas un droit au suicide. Un droit au suicide supposerait qu'on puisse exiger de l'État eh bien, qu'il nous permette l'exercice d'un droit. Un droit au sens subjectif, c'est une prérogative qui me permet d'exiger droit du locataire par rapport au propriétaire, droit du salarié ou droit de l'employeur, droit qui est validé par le droit et qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, permet de recourir au juge. En matière de suicide, ce n'est pas un droit au suicide. Non, c'est une liberté. Liberté, ça veut dire que eh bien, si quelqu'un décide de tenter ou de réussir à se suicider, c'est une liberté, il n'y aura pas de conséquences juridiques pour lui-même. Ça n'est pas une infraction, ça n'est pas non plus un droit. Et donc, pour ce qui concerne la fin de vie, il faudrait peut-être commencer par ça. Que dit le droit ? Ben, il y a la fin de vie volontaire de celui qui veut se suicider. Eh bien, le droit est, pour l'heure, totalement indifférent à la question du suicide, qui est une liberté. Sur le plan éthique, ça n'est pas la même chose. Sur le plan éthique, bien évidemment, et nous le savons bien, dans notre société, après les accidents de la route chez les moins de 50 ans, c'est la deuxième cause de décès en France que le suicide. Bien évidemment, notre société essaye par tout moyen de lutter contre le suicide. Et depuis quelques semaines, malheureusement en France, des suicides des jeunes, voire des très jeunes, puisqu'on a des ados, des pré-ados qui passent à l'acte. Notre société, dans le cadre d'une logique de santé publique, essaye véritablement de dissuader, de limiter et d'informer pour empêcher le suicide. Bien évidemment, on est dans le champ éthique, dans le champ de la santé, parfait. Maintenant, sur le plan du droit, tenter de se suicider ou se suicider est une liberté et le droit est indifférent à cette question. C'est important parce que, ce dont nous allons, je pense, principalement parler, ça sera bien évidemment de gens qui seront en fin de vie et qui n'auront plus cette autonomie minimale permettant de se suicider. Parce que on a aussi, dans le grand domaine de la fin de vie et du droit, un certain nombre de gens qui décident d'en finir. Les motivations de ceux qui se suicident, elles peuvent être économiques, amoureuses, etc. Mais elles sont aussi, dans certains cas, liées à la fin de vie. Et les médecins, il y en a probablement dans la salle, le savent bien, il y a, et depuis toujours, des cas d'individus qui, à la seule annonce d'un diagnostic, y compris d'une pathologie pour laquelle les symptômes ne sont pas encore présents, il y a des individus qui décident d'en finir. Ça arrive. Et on est dans le choix volontaire de se suicider plutôt que d'affronter le premier symptôme de la maladie. C'est le suicide de la personne autonome. Mais bien évidemment, ça n'est pas, en termes de masse, la question la plus souvent posée. Venons-en aux questions de la personne qui est en perte d'autonomie, en manque d'autonomie et qui est confrontée à la fin de vie. On a la loi de 99 en France sur les soins palliatifs, très bien. On a une deuxième loi importante, qui est la loi du 4 mars 2002, loi portant droit des malades et amélioration de la qualité du système de santé. Cette loi va-t-elle révolutionner le droit médical en France de manière générale ? Non. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution, mais qui a le mérite de recadrer et de préciser un certain nombre de règles sur l'ensemble des malades. Parmi ces règles, Il y a bien évidemment le rappel de la nécessité d'un consentement libre et éclairé, et surtout dans la version 2002, l'article L1111-4, peu importe, du Code de la santé publique, qui dit que aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être effectué sans le consentement libre et éclairé du malade. Et cet article va même jusqu'à envisager l'hypothèse où le refus de soins d'un malade met sa vie en danger. Si le refus de soins met sa vie en danger, qu'est-ce que dit la loi ? Eh bien, le médecin doit tout faire pour la convaincre, la personne, de l'intérêt d'accepter les soins. Il peut s'adjoindre les services d'un autre médecin, il peut demander un délai de réflexion. Et puis, deux cas possibles. Soit il arrive à convaincre le malade d'accepter les soins, le malade accepte, on revient au principe. Deuxième cas, le malade n'accepte pas les soins, malgré la tentative de persuasion, de conviction, de négociation du médecin, il n'accepte pas les soins. Alors on arrive au principe, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être effectué sans le consentement libre et éclairé du malade. Quand bien même ce refus le mettrait en danger. Mise en danger. Deux mots sur le mot danger, et puis un autre sur le mot péril, pour faire la différence entre les deux notions de danger et de péril. C'est très important, parce que très souvent, on les confond. Qu'est-ce qu'un danger au sens juridique du terme ? Le danger, c'est un risque certain, mais dont l'intensité et l'opportunité sont encore variables ou relatifs. Le risque est certain, mais on ne sait pas quand ni avec quelles conséquences. L'exemple le plus pédagogique, c'est le tabac. Et c'est un fumeur qui en parle. Le tabac, fumé est dangereux. C'est marqué sur les paquets. 50% des fumeurs mourront d'une pathologie liée au tabac. C'est dangereux, c'est prouvé. Mais c'est un danger. On ne sait pas quand, ni qui, ni avec quelles conséquences. C'est un danger. D'accord ? Un péril. Un péril, sur le plan juridique, c'est un risque certain, gravissime et imminent. Risque certain, mais risque de mort ou de lésion irréversible à très très brève échéance. Ça se compte en minutes, un péril. Il y a vraiment une différence énorme entre le danger, exposition à un risque, mais encore très variable et relatif, et le péril, où là il n'y a plus de relativité, c'est quelque chose qui est gravissime et qui va se produire. Pourquoi c'est important sur le plan du droit ? Eh bien parce que c'est entre le danger et le péril que se fait la frontière entre la proposition de soins à quelqu'un qui est en danger du fait de sa santé ou sa situation. On propose des soins, mais l'individu, nous dit la loi du 4 mars 2002, est libre de refuser. Refuser une prise en charge. Même s'il y a danger, l'individu peut refuser la prise en charge. Le médecin que je vais voir aujourd'hui et qui me dit « Ah ben tiens, vous avez un grain de beauté, mais qui est en train de tourner vraiment vilain. Moi, il faut faire une ponction, un prélèvement, parce que ça peut, dans 6 mois, être un mélanome. Dans 1 an, vous risquez d'être mort. » Il me parle d'un danger. Je dis « Ok, docteur, ok, mais non. » Il tente de me convaincre, il n'y arrive pas. Eh bien, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, pourquoi ? Parce que la question du rapport au danger de l'être humain adulte, je parlerai que des adultes, c'est une question de liberté. En droit français, l'adulte majeur est libre de vivre dangereusement, de s'exposer ponctuellement à un danger. Et personne ne peut l'en empêcher. Si aujourd'hui, ce soir, un d'entre nous veut aller faire 20 km de jogging à 10h du soir par moins 7, c'est dangereux. Médicalement, il est prouvé, courir par ce temps-là, ça expose à des... Oui, mais on ne peut pas l'empêcher, il est majeur. De s'exposer à une vie dangereuse. Et ainsi de suite. Aller faire une promenade en montagne sans le matériel, en tongs, même quand on annonce de l'orage, on ne peut pas empêcher les adultes majeurs de vivre dangereusement. S'exposer à un danger, c'est une des acceptions de la liberté. Le péril, en revanche, c'est une situation de risque vital imminent qui, au nom de l'article du Code pénal que j'ai cité, 223.6, fait obligation à autrui de porter secours. Obligation de porter secours à une personne en péril avec ou sans le consentement de la personne. Avec ou sans le consentement de la personne, ça c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire qu'on va avoir des situations de soins de gens qui n'ont pas consenti ou même qui ont refusé des soins. Lorsqu'il y a péril vital imminent, le principe, c'est le soin, c'est le secours. Et si le secours passe par le soin, eh bien, on soigne de gré ou de force. Quelques exemples. Heureusement, dans la plupart des cas de péril, l'individu en péril est inconscient. Donc, c'est extrêmement facile. Le SAMU est appelé sur un véhicule accidenté, planté dans un arbre. Il y a un conducteur inconscient sur le volant. Il y a du sang partout. Le SAMU va gérer, les urgentistes vont gérer la situation. Sans discuter avec l'individu, sans chercher à savoir s'il est d'accord. On ne lui demande pas, est-ce que vous êtes d'accord pour être extrait du véhicule, lever la paupière gauche, bouger l'orteil droit? Non, on le prend, on le médicalise, on le transporte. S'il faut, on fait des soins sur place ou à l'arrivée. Quand il va se réveiller, si ça se trouve, il aura été opéré, transfusé, amputé, etc. On ne lui demande en aucun moment son aide. Inconscient et péril égale soin imposé par la décision du médecin, parce que le médecin porte secours à une personne en péril. Quand l'individu est en péril mais refusant, alors là, ça peut donner du conflit. Ça peut générer du conflit. Un individu, ce soir, décide de se suicider, se jette dans le clin qui est à une température de quasiment zéro et est en train de se débattre dans l'eau quand on appelle les pompiers qui mettent un zodiaque à l'eau et qui vont foncer sur la personne en question, qui est encore consciente et qui leur dit « Je veux mourir, foutez-moi la paix, barrez-vous. » Est-ce que les pompiers font demi-tour et disent « Excusez-nous, on ne voulait pas déranger ?» Non, il y a une personne en péril. On doit, obligation pénale, de porter secours à personne en péril. Degré ou de force. Si elle est d'accord, très bien. Si elle n'est pas d'accord, pareil. Et s'il faut, on lui mettra un coup de rame et on ira jusqu'à l'assommer pour la sortir de ce péril vital. Contre son gré, alors qu'elle voulait mourir. C'est le problème classique des témoins de Jéhovah et de la transfusion. Peut-on transfuser un témoin de Jéhovah en France? Non. Tant qu'il refuse, on respecte ce refus, sauf s'il y a péril vital imminent. Lorsqu'il y a péril vital imminent, alors là, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de consentement, il y a obligation de porter secours. On a eu une affaire à Lille il y a quelque temps, c'est exactement ce schéma-là. Un témoin de Jéhovah est accidenté de la route, il est conduit aux urgences, son conjoint l'accompagne et dit aux urgentistes « Attention, il est témoin de Jéhovah ». D'ailleurs, dans son dossier au CHU de Lille, où il est déjà venu, est mentionné qu'il refuse le sang. Ne le transfusez pas, il préfère mourir que d'avoir du sang, et si vous le transfusez, on vous fait un procès. Histoire de mettre tout de suite la bonne ambiance dès le sas d'urgence, c'est comme ça que ça se pose. Les urgentistes font leur bilan, il a perdu un volume sanguin suffisant, on le transfuse, on lui sauve la vie. Et il fait un procès. Et le CHU de Lille doit répondre de cette formule. Aucun acte médical sans le consentement du malade, et là vous l'avez transfusé sans son consentement. Oui, mais il y a une seule exception, c'est le péril vital imminent, l'urgence vitale imminente. Donc, en lui sauvant la vie, le CHU n'a pas commis de faute. Voilà la question du droit par rapport au droit du malade de manière générale. En quoi est-ce que ça se télescope avec notre question de la fin de vie? Eh bien, parce que c'est bien évidemment le cadre qui va être modifié en 2005, j'y viens, mais qui va être encore celui qui est en place aujourd'hui en France, globalement sur la législation concernant le rapport au consentement de la personne malade, c'est que on respecte son consentement, principe de libre respect du consentement, mais avec toutefois une limite, qui est le péril vital imminent, où là, il y a une obligation de porter secours à personne en péril. Ce qui explique, par exemple, qu'en France, contrairement aux États-Unis, les documents que certains vont porter sur eux, du genre « ne pas me réanimer en cas d'arrêt cardiaque » ou d'AVC, ou « ne pas me réanimer »,« not to be reanimated », disent les Américains, ces documents en France n'ont aucune valeur. Aucune valeur juridique. Et le médecin qui ne réanimerait pas en disant « il a fait un malaise, monsieur Pi, mais sur lui, il avait un papier, ne pas me réanimer, donc j'ai respecté », ce médecin pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en péril. Puisque le code pénal fait obligation de porter secours à personne en péril. Avec son consentement ou pas, avec ou contre un papier qui pourrait être tendu par lui, ou par sa femme, ou par quiconque, il y a une obligation de porter secours à personne en péril. Voilà ce que dit la loi de manière générale. Là-dessus, on arrive sur l'affaire Humbert, qui va bien évidemment être l'occasion de faire un petit peu réfléchir sur le droit applicable en France. Affaire Imbert, donc je vous rappelle les circonstances, il est né en 1981, et en 2000, il a 19 ans, quand Vincent Imbert, qui est sportif, qui est pompier volontaire, etc., est renversé par un chauffard, qui restera d'ailleurs toujours inconnu, ça fait partie des accidents de la route non résolus. Il se retrouve extrêmement gravement traumatisé de la route, dans un état de très grande fragilité, mais vivant, avec néanmoins une restriction quasi totale de son autonomie, puisque ses moyens d'expression sont limités à quelques mouvements d'un bras et de l'œil. Vincent Imbert va s'exprimer au travers de ses proches et au travers surtout d'un livre qu'il va adresser au président de la République, Jacques Chirac, à l'époque. Tout le monde en a entendu parler. Vincent Imbert intitule son bouquin « Je vous demande le droit de mourir ». Il demande la chose suivante, je résume, mais certains qui connaissent mieux ce dossier pourront en parler tout à l'heure. Il résume en disant que son cerveau est intact, mais dans un corps qui est complètement détruit, dit-il, et donc il se retrouve en tant que personne, prisonnier d'un corps dont il ne veut plus, et comme il n'y a pas de moyen d'améliorer la situation de ce corps, eh bien, il demande qu'on en finisse avec cette situation. Il veut qu'on mette un terme à sa vie, sachant que, bien évidemment, lui-même n'a aucune autonomie, ne peut pas le faire lui-même, et il le dira à un certain moment, si j'avais les moyens, moi, de le faire, d'appuyer sur un bouton, d'appuyer sur une seringue, d'appuyer sur quoi que ce soit, eh bien, je le ferais, mais je n'en ai pas l'autonomie, donc je demande que quelqu'un le fasse pour moi. L'affaire Vincent Imbert est intéressante parce qu'elle va, sur une affaire médicale au départ, tout doucement glisser vers du politique. En effet, il y a deux parlementaires à l'époque, en 2002, qui vont se faire les porte-parole, c'est beaucoup dire, mais qui vont s'impliquer dans cette question de la fin de vie. C'est un député socialiste de la Nièvre, Gaëtan Gorce, et une députée UMP de Meurthe-et-Moselle. Ils ne sont pas du même bord politique. Ils sont cadras tous les deux, Gaëtan Gorce et Nadine Morano, qui aura un avenir politique brillant par la suite, mais à l'époque, elle n'est que députée depuis quelques mois. Et tous les deux vont s'impliquer dans cette question parce qu'ils ont tous les deux, dans leur entourage, vécu des situations complexes, avec des fins de vie difficiles. Ils se mettent à écrire ensemble. Et surtout, les médias vont immédiatement embrayer et amplifier le mouvement. Pourquoi ? Parce que c'est très médiatique, c'est un homme et une femme, ils sont plutôt jeunes, ils sont de gauche et de droite. Bref, il y a quelque chose qui se fait à ce moment-là, une sorte de mayonnaise qui prend. Affaire Imbert d'un côté, le bouquin, Jacques Chirac qui répond « on est désolé, on peut rien en France ». Pour ceux qui sont dans votre cas, on peut faire des soins palliatifs, on peut vous soigner, mais on ne peut pas vous tuer. Et les deux députés, et il commence à y avoir, on dirait aujourd'hui un buzz, un mouvement, un courant, une tribune dans Libération, puis une autre dans un autre journal, des plateaux télé, etc. Et là, eh bien, du plus haut niveau de l'État, non pas du président de la République à l'époque, qui je crois y était indifférent, en 2012, mais de la part de quelqu'un qui est très proche de lui et qui s'occupe des pièces jaunes, je dirais pas qui c'est, et il y a un message qui descend du château qui consiste à dire il faut mettre un terme à ce qui est en train de se passer. Le contexte étant également un contexte international, n'oublions pas qu'en 2001 et en 2002, les Pays-Bas et la Belgique ont légiféré sur la fin de vie. Donc, en France, à l'époque, eh bien, il est demandé de mettre un terme à cette espèce de courant et de réflexion qui est en train de se produire. D'autant qu'en septembre 2003, alors chronologiquement, et on va faire en France, quand on veut étouffer un dossier, on fait toujours pareil, hein, on nomme une commission, on met à la tête de la commission aucun des deux députés qui se sont intéressés à la question, mais on prend un médecin qui est en service commandé, le bon docteur Jean Leonetti, qui monte une commission et qui va programmer les auditions sur plusieurs mois, etc. Septembre 2003, décès de Vincent Imbert suite à, d'une part, une intervention active et directe de sa maman, mais qui n'a pas réussi, Marie Imbert, à entraîner la mort de Vincent Imbert, et le surlendemain du docteur Chaussois, qui va compléter par des molécules actives et mortelles la démarche. Le débat reprend, après le décès de Vincent Imbert, et les deux députés qui sentent bien que la commission est une sorte de gros édredon qui a pour but de calmer le jeu et d'empêcher qu'on on réfléchisse vraiment aux questions de fin de vie, eh bien, reprennent leur bâton de pèlerin. Et là, on dit on ne peut plus se contenter d'une commission, il faut qu'on change, qu'on vote une loi en France. C'est la loi du 22 avril 2005, la loi dite loi Leonetti, puisque c'est lui qui l'a portée, qui introduit dans le Code de la santé publique un certain nombre d'articles, 1111, 10 et suivants, sur la question de la fin de vie. Texte dont je vais essayer de vous parler ce soir en vous disant que c'est un texte, comment dire, qui a une qualité et un défaut. Une qualité, c'est que ce texte, il existe et qu'il a été débattu publiquement, il y a eu débat parlementaire, vote à l'Assemblée et vote au Sénat, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour parler de la fin de vie, on est sorti des quelques cénacles de l'Académie nationale de médecine ou du comité d'éthique ou de quelques groupes, on en a parlé dans la représentation nationale, dans l'hémicycle, avec des débats parlementaires qui permettent d'avoir l'expression des points de vue des uns et des autres. On est dans un processus démocratique et transparent. Et il s'ensuit que désormais on a une loi et on a une section dans le Code de la santé publique, expression de la volonté des malades en fin de vie. On va pouvoir se référer à ces notions-là. Ça, c'est la qualité de la loi Leonetti. Un défaut majeur de la loi Leonetti, c'est que c'est une loi qui est assez classique depuis un certain nombre d'années dans son contenu, c'est que c'est une loi qui ne change rien. Une loi qui n'apporte rien sur le plan juridique, en ce sens que cette loi n'a en rien modifié, en rien du tout, les règles de droit applicables antérieures. Cette frontière du permis et de l'interdit, du licite et de l'illicite dont je parlais en introduction, n'a pas bougé d'un iota. Il n'y a aucun acte qui était illicite avant et qui, depuis 2005, serait devenu licite. Et réciproquement, aucun acte licite avant serait devenu illicite depuis. La loi Leonetti n'a en rien fait bouger les lignes sur le plan du droit. Elle n'a fait, mais ça n'est pas nul et anodin, elle n'a fait que expliciter un certain nombre d'éléments. Très bien. Prenons-la déjà pour ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Leonetti? Eh bien, elle dit principalement, je vous en lirai deux extraits, article L1111-10 et L1110-5. Lorsqu'une personne en phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix. Quand une personne, quelles que soient ses motivations, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté. Super. C'est pas un scoop. Depuis 2002, c'était déjà dans la loi. Puisqu'il était dit dans la loi 2002, aucun acte médical, aucun traitement sans le consentement. Donc c'est typiquement le genre d'article qui ne fait que reprendre, en rajoutant un peu de décorum, mais de reprendre ce principe de refus du consentement. Pardon, du respect du refus du consentement. Simplement, il y a un mot qui a changé dans la loi de 2002, dans l'article 1111-4. Je vais vous donner la rédaction d'avant et la rédaction d'après. Vous allez voir que c'est vraiment un changement radical. Il était dit avant, si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre. Et maintenant, il est dit, si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout faire. On a remplacé le refus d'un traitement par le refus de tout traitement. Super. Sauf que quand on refuse un traitement, puis un traitement, puis un traitement, puis tous les un traitement qu'on vous propose, ben on les refuse tous. Et que ce changement de mot dans la loi est caractéristique du fait que on est dans une loi d'artifice, une loi qui modifie juste quelques petites choses sans modifier les règles juridiques applicables. Quelles sont donc les règles juridiques applicables à la question de la fin de vie de la personne qui n'a pas l'autonomie pour se suicider? Je reprends toujours ce préalable. Eh bien, je dirais que on a deux cadres. On a d'une part les personnes qui ont la situation décrite. Phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ces personnes-là, aujourd'hui, peuvent, dès lors qu'elles sont conscientes, contraindre les médecins, les équipes médicales, à respecter leur volonté d'arrêter tout traitement. Bien. C'est ce que le docteur Leonetti appelle le laisser-mourir. En France, on respecte le laisser-mourir. Si l'individu qui est en phase terminale refuse tout traitement et qu'il est conscient, on doit absolument respecter. Là, c'est clair et net, et on va le laisser mourir. Nous parlerons tout à l'heure de la qualité de cette agonie. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, sur le principe, on ne peut pas contrevenir à ça. Maintenant, il y a deux autres personnes dont il faut que nous parlions. La personne en phase avancée ou terminale, mais qui n'est pas consciente, qui n'est plus en état de s'exprimer. La loi a permis, et vous le savez bien, de rédiger des directives anticipées, ce qui signifie que quand on est conscient, on peut s'exprimer et dire ce qu'on voudra pour après. Sauf que ces directives anticipées ne s'imposent pas à l'équipe médicale. Il est simplement dit que l'équipe médicale, au moment de décider, en tiendra compte. C'est un simple avis. Là, en revanche, pour la personne pourtant en phase terminale, mais dès lors qu'elle est inconsciente, alors il n'y a aucune certitude que son consentement sera respecté. Et puis surtout, il y a la troisième personne, celle qui souhaite en finir avec la vie et qui n'est pas en phase terminale d'une affection grave et incurable. Par exemple, quelqu'un qui serait dans le profil de Vincent Humbert. Parce que cette loi, au départ, elle a été vendue, depuis on a abandonné, elle a été vendue par certains partisans comme une loi Vincent Humbert. Sous-entendu, la loi de 2005 est là pour répondre à des cas identiques ou similaires à celui de Vincent Humbert. Mais si Vincent Humbert n'était pas mort du fait de sa mère et du docteur Chaussoy, il ne rentrait pas dans les conditions d'application de la loi de 2005. Puisqu'il n'était pas victime d'une affection grave et incurable, certes, il était incurable, mais en phase avancée ou terminale. Selon les médecins, ils ne sont pas tous d'accord, mais si on s'était occupé médicalement de Vincent Humbert, son espérance de vie était probablement de l'ordre de 50 à 60 ans. On pouvait entretenir ses fonctions corporelles, physiologiques, de telle manière qu'en prévenant les infections, en gérant son alimentation artificielle, son hydratation, son ventilation, on pouvait le faire durer encore 25 ou 30 ans, statistiquement parlant. Il n'était pas en phase terminale d'une affection grave et incurable. Donc, trois catégories pour schématiser. Celui qui est conscient et en phase terminale et qui peut refuser tous les soins et dont le laisser mourir sera respecté. Celui qui est en phase terminale mais qui n'est pas conscient, on tiendra peut-être compte de ce qu'il a pu dire avant, mais ça n'est pas une obligation. Et puis celui qui n'est pas en phase terminale, pour qui, eh bien, aujourd'hui, on a très peu de solutions. Très peu de solutions. Parlons un petit peu de Chantal Sébir. Chantal Sébir est cette jeune femme qui, puisqu'elle avait à peine une cinquantaine d'années, qui était atteinte d'une pathologie de la face et qui était encore chez elle et qui savait que sa pathologie était incurable, mais qu'elle mourrait à un moment ou à un autre dans les mois ou les années à venir et qui souhaitait en finir à l'heure qu'elle en aurait décidé. Elle aussi a voulu demander le droit à ce qu'on la tue, puisque c'est comme ça qu'il faut en parler. Mais elle n'a pas demandé au président de la République, ça Vincent Humbert l'avait fait et ça n'avait pas marché. Alors elle a demandé à un tribunal, au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, elle a demandé que un de ses proches soit autorisé à lui donner la mort au moment où elle l'aurait décidé. Le tribunal lui a répondu que ce n'était pas possible en droit français, puisque le droit prohibe l'homicide volontaire. Chantal Sébir a été un cas assez médiatisé. Elle est décédée quelques semaines plus tard par suicide. Elle s'est suicidée avec des produits médicamenteux qui l'ont à l'évidence été fournis par un médecin qui ne s'est pas caché d'ailleurs de lui avoir fourni les produits. Et la question qui s'est posée à l'époque et à laquelle d'ailleurs le docteur Leonetti avait répondu, et je crois que ça va nous permettre de toucher du doigt la situation problématique, voire hypocrite, qui est la situation française aujourd'hui. Le docteur Leonetti, rédacteur donc de cette loi de 2005, avait répondu à Chantal Sévire, « Eh bien, madame, la loi prévoit une solution. Vous n'avez qu'à rentrer dans une unité de soins palliatifs. » Elle n'était pas du tout encore en phase terminale. Hein. « Vous n'avez qu'à rentrer dans une unité de soins palliatifs et on peut vous en proposer une. Et là, vous n'avez qu'à accepter une sédation, donc d'être mise en situation d'inconscience. Et là, comme vous serez dépendante de par la sédation, dépendante des machines, de l'alimentation extérieure, etc., eh bien, on respectera le laisser-mourir que vous avez demandé, puisque vous êtes autonome aujourd'hui, on ne peut rien pour vous, ben, rendez-vous non-autonome, dépendante par la sédation des machines et des soignants, et là, on pourra vous laisser-mourir. Je crois que sur la décision quant à la fin de vie, on a ici l'illustration de ce qu'est une des hypocrisies de la loi de 2005. Enfin, deux mots sur la qualité de l'agonie, sur la qualité de la fin de vie. C'est peut-être le point le plus difficile aujourd'hui, puisque eh bien, cette loi est une loi qui permet de respecter la décision de refuser les soins. Mais elle ne permet pas, bien évidemment, on est tous d'accord, elle ne permet pas d'aller plus loin. Donc, se laisser mourir. Cette agonie, peut-être rapide. C'est clair que quand on est dépendant d'une machine qui vous maintient en vie à une minute près, il suffit de débrancher la machine et la mort se produit rapidement. Maintenant, quand la dépendance à la machine, à l'artifice, au produit est nettement moins importante, on peut avoir, comme Hervé Pierrat, en novembre 2007, une agonie qui dure 6 jours dans des conditions abominables, avec des tensions nerveuses, des bonds dans le lit, etc. Ou comme un certain nombre d'autres, qui peuvent durer plusieurs semaines. Et hier, dans le Canard Enchaîné, figurait un article qui s'appelle « La mort dure 3 ans ». En fait, ce n'est pas 3 ans, mais 3 semaines, qui décrit par le menu, récemment, le fait qu'un individu qui était dans cette situation a refusé tous les soins, a été placé en unité médicale. Après avoir quitté Berck-sur-Mer, il était à Paris. Je vous cite les dernières lignes. Michel est transféré à Paris en mars 2011. Les médecins décident qu'il mourra de sa mort, puisque c'est lui qui a décidé. Ils arrêtent de le nourrir, puis de l'hydrater, puis de le ventiler. La médecine s'est retirée. Sa femme proteste, ses fils affolent. N'y a-t-il pas un autre moyen ? Il agonise et meurt au bout de 3 semaines. Voilà ce à quoi on en est arrivé en France. Alors, quand on en parle avec le docteur Leonetti en particulier, je n'ai pas d'animosité envers lui, et je pense que sur ce point-là, il sait, mais il ne peut pas aller au-delà pour des raisons politiques aujourd'hui, mais il l'a dit dans l'affaire Hervé Pierrat, il l'a dit, notre loi, parce qu'il se l'approprie la loi, c'est la loi de la République, mais la loi de 2005 permet de le laisser mourir, respecte et doit respecter le laisser mourir chez l'adulte conscient, en fin de vie, très bien. Mais, a-t-il dit au sujet de l'affaire Pierrat, le laisser mourir, ce n'est pas le laisser crever, au sens comme une bête, dans ces conditions abominables d'Hervé Pierrat ou d'autres individus. C'est vrai, mais là, on a encore du travail à faire. Sur le plan médical, bien évidemment, mais là, je n'ai pas de compétences, sur comment gérer l'agonie confortable, si je peux me permettre, cette qualité de la fin de vie finissante, comment est-ce qu'on peut médicalement faire ? Dans l'affaire Pierrat, le problème, un peu comme ici, c'est que la médecine s'est retirée. Les médecins disant, vous voulez mourir, vous refusez nos soins, très bien, ben on s'en va. Et on a laissé crever Hervé Pierrat dans des conditions abominables, sans gérer cette fin de vie qui met parfois des jours et des semaines. Et puis, eh bien, sur le plan juridique, il y a des choses qui peuvent encore évoluer avec des propositions dans l'air du temps. J'en ai relevé une, proposition 21 du candidat François Hollande dans ses 60 propositions exprimées en fin de semaine dernière. Je cite, chacun pensera ce qu'il veut, « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicale pour terminer sa vie dans la dignité. Autrement dit, je crois lire, mais je raisonne en direct par rapport à vous, c'est une proposition, c'est pour envisager l'avenir, que l'idée c'est de reprendre les mêmes conditions, phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, c'est les termes déjà actuels, mais pour aller plus loin que simplement acter le refus de soins et arrêter de soigner et laisser mourir, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait, pour une personne, de pouvoir demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. On se rapproche tout doucement de l'acte homicide. Mais, et ce sera mes deux dernières remarques juridiques avant de passer aux questions, l'euthanasie n'est pas déjà quelque part, dans certains cas, permise en France? Et puis qu'en est-il enfin de la dignité? L'euthanasie est un terme très consacré, mais en même temps contesté, et surtout, c'est un terme dans lequel chacun met ce qu'il veut. Mais ce que je voudrais dire, moi, en tant que juriste, c'est que pour l'adulte en phase incurable et conscient, qui refuse tous les soins, eh bien, on a déjà des cas d'homicide permis par la loi. Parce que quand je suis dépendant d'une machine et que j'ordonne et qu'on doit respecter qu'on arrête cette machine et que je meurs, celui qui coupe la machine ou qui coupe la perf, etc., commet un acte homicide. Et je vous rappelle que je vous ai dit en introduction que le meurtre est indifférent au mode opératoire. Qu'on me tue en me tirant une balle, ou en m'étouffant avec un oreiller, ou en coupant la machine qui me relie à la vie, si un scaphandrier est sous l'eau relié avec un tube d'air et quelqu'un volontairement coupe le tube d'air et qu'il meurt, on parlera de meurtre. Si quelqu'un est relié à une machine et que quelqu'un volontairement coupe cette machine et que le dépendant en meurt, c'est juridiquement un homicide. Donc, cette pseudo-affichage disant en France on peut laisser, on respecte le laisser mourir mais pas le faire mourir, etc., c'est juridiquement une hypocrisie, puisque en respectant dans ce seul cas pour le majeur lucide en phase terminale d'arrêter des soins qui sont les soins vitaux, quelque part c'est un homicide que l'on justifie. Ça, c'est une remarque qui me semble importante. Et la deuxième, sur la dignité, c'est un mot qui est très à la mode. Tout le monde parle de dignité. L'association qui organise ce soir la conférence porte le dé de droit de mourir dans la dignité. Les juristes ont beaucoup de mal avec le mot dignité, parce que le mot dignité est un mot qui est un mot valise dans lequel chacun met ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on le voit bien en matière de fin de vie. Les partisans d'une législation plus opérative, plus active, parlent de dignité. C'est la proposition 21, pour terminer sa vie dans la dignité. Les opposants à toute évolution du droit invoquent la dignité de l'être humain. Donc chacun s'envoie des anathèmes à la figure avec le mot dignité. On a ça dans d'autres domaines. Hein. Dans d'autres domaines, les partisans d'une réforme et les opposants parlent de dignité. Mais je terminerai par une formule qui me semble très importante, parce que très souvent, on l'entend dans ces débats, c'est de dire qu'il faut respecter la vie. Et on a beaucoup de courants, de groupes philosophiques, religieux ou athées ou laïcs, qui parlent du respect de la vie. Moi, juriste, et je suis là ce soir que vous pourrez parler de droit, je ne sais pas ce que c'est la vie. Et respecter la vie, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que nous connaissons depuis longtemps, c'est ce que c'est que respecter le vivant et les choix des vivants. Tant que la loi respecte la liberté de choix des vivants, alors les juristes sont contents. Merci pour votre accueil, Maurice. Et la parole est à la salle.
Monsieur, à 84 ans, là. ça faisait plusieurs années que sa femme était souffrante et
elle lui a demandé de l'aider et il lui a fourni des médicaments et elle est morte. Les enfants étaient d'accord, tout le monde était d'accord. Et elle, ça faisait longtemps qu'elle avait demandé. Et ce monsieur, ben, il est traduit en justice. Il y a eu les scellés qui ont été mis sur sa porte de chambre. Et donc, c'est quelque chose de très douloureux. Et quelle est la loi ? Enfin, que dit la loi par rapport à ça ?
Alors, ça, c'est une question importante que je n'avais pas évoquée. C'est non plus le suicidant face à lui-même, mais l'entourage. Et pour ça, je remonterai à l'année 1987, parce que c'est une année importante. C'est celle de sortie d'un ouvrage dont on a tous entendu parler, qui s'appelait « Suicide, mode d'emploi ». Les auteurs de ce bouquin préconisaient un certain nombre de recettes simples pour réussir son suicide. Et un certain nombre de gens se sont suicidés. On a retrouvé parfois à côté de gens morts le bouquin à la bonne page, etc., etc. Plusieurs procès ont été intentés contre les auteurs du bouquin et qui n'ont pas abouti à quoi que ce soit. On ne peut pas être complice de suicide. Le suicide n'est pas une infraction. Une seule condamnation a pu être prononcée contre un des auteurs parce que un lecteur, en plus mineur, du bouquin, qui avait acheté le bouquin et qui voulait mourir, avait pris contact avec lui, lui avait écrit une lettre en lui demandant des précisions sur telle ou telle recette, etc. Et l'auteur avait répondu en disant « La précision, c'est ça, mais moi, je vous le déconseille, ne le faites pas, etc. » Mais il s'était contenté de lui donner une précision. Et on retrouve le jeune homme mort et à côté de lui, la lettre de l'auteur. Il a été poursuivi pour quoi, l'auteur ? Pour non-assistance à personne en péril. Il a été considéré qu'il avait été informé d'un péril vital imminent, de quelqu'un qui voulait en finir avec la vie, et que, en répondant ce qu'il avait répondu, il avait refusé de porter le secours évident qu'on aurait dû porter en alertant la famille ou les proches ou les pompiers ou les médecins, etc. Et donc, cette polémique de 87 nous donne les éléments de réponse aujourd'hui pour l'entourage de quelqu'un qui se suicide. Première hypothèse, si, malheureusement, bien sûr, il faut prendre toute précaution, mais quelqu'un dans mon entourage prend par exemple un objet qui m'appartient, une arme, ou ma voiture pour se suicider, pendant que je vous parle, bien évidemment, moi-même, lui-même, il se réussit ou il se rate, mais il n'encourt aucune poursuite puisque ça n'est pas une infraction. Et moi, pour ce qu'il a fait avec ma voiture, mon arme, mon pistolet, je ne suis pas responsable. Il n'y a pas d'infraction. En revanche, si quelqu'un dans mon entourage me dit « donne-moi une corde pour me pendre », et je lui dis, moi je suis contre le suicide, mais la corde elle est dans le troisième tiroir de la cave, et merci de ne pas la salir, alors on pourra me reprocher quoi ? Une non-assistance à personne en péril, en me disant, je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas complice de quoi que ce soit, mais j'avais connaissance d'un cas de péril vital imminent, et je n'ai rien fait pour porter secours. On retrouve cette infraction de l'article 223.6. C'est pourquoi ce qui se passe en Suisse avec une aide médicalisée au suicide, pour ceux qui sont encore autonomes suffisamment pour pouvoir se suicider eux-mêmes, eh bien en France ce n'est pas possible parce que l'infirmier ou le médecin qui tendrait la pilule ou le masque, etc., permettant de se suicider médicalement, pourrait être poursuivi non pas pour meurtre, mais pour non-assistance à personne en péril. D'accord. Voilà la qualification qui a été.
Qu'est-ce qu'il
risque, alors ? En théorie, il risque 5 ans de prison. En théorie. Maintenant. Attention, vous m'avez demandé de parler de droit et je suis là pour essayer d'en parler avec vous, mais le nombre de poursuites en France est infinitésimal. Et j'en veux pour preuve que Marie Imbert, qui publiquement a assumé d'avoir tenté de tuer son fils, elle n'a pas réussi, mais elle a tenté. Et le docteur Chaussois, qui publiquement a reconnu avoir tué Vincent Imbert, ils n'ont pas été poursuivis. Pourquoi ils n'ont pas été poursuivis ? Pour quel motif ? Il y a eu une instruction préparatoire devant un juge d'instruction. Et le parquet, le procureur de la République, qui agit sur ordre du ministre de la Justice, le parquet a requis le non-lieu au nom, je vous cite l'argument, de la contrainte morale que Vincent Imbert avait exercée sur Marie Imbert et sur le médecin. La contrainte morale, on sait ce que c'est en droit, c'est quand quelqu'un n'a eu aucun choix, a été contraint. Vous êtes dans votre banque en train de retirer des sous, un braqueur vous met un pistolet sur la tempe pour l'aider à fracturer le coffre, à transporter des sacs, c'est de la contrainte morale. Vous avez été contraint moralement. Mais Marie Humbert et le docteur Chaussoir ont été contraints moralement par Vincent Humbert, qui était immobile, de pratiquer un homicide. Voilà l'argument, vraiment un subterfuge juridique pour ne pas poursuivre Marie Humbert et le docteur Chaussoir. Pourquoi pas de poursuite? Parce que les poursuites auraient été d'une force médiatique extraordinaire et ça aurait été une tribune pour un certain nombre de partisans de l'euthanasie. Et bien évidemment, le gouvernement de l'époque, le ministre de la Justice, ne voulait surtout pas ça. Donc on a escamoté le débat. Mais en termes de respect de la licéité et de la légalité, c'est quand même discutable. Plus que discutable. Donc, ce monsieur, en théorie, risque 5 ans. Je vous rappelle, pour la dernière affaire jugée, je ne parle pas des affaires en cours dans le Sud-Ouest, mais l'affaire Chantal Chanel en Dordogne en 2006, pour un médecin généraliste qui avait prescrit les produits et pour l'infirmière qui les avait injectés, et qui ont toutes les deux été traduites devant la cour d'assises, la cour d'assises a acquitté l'infirmière et condamné la médecin à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Elle encourait perpétuité pour assassinat, elle a été poursuivie pour assassinat, elle a été condamnée à 2 ans avec sursis. C'est une condamnation, mais elle n'a pas fait un jour de détention. C'est le minimum, minimorum qu'on puisse prononcer dans une affaire d'assassinat. Donc, je ne crois pas qu'il y ait à craindre des verdicts d'une sévérité exemplaire. Et dans un petit bouquin que j'avais sorti il y a quelques années, j'avais relevé un certain nombre de verdicts d'acquittement de personnes ayant publiquement assumé d'avoir tué un proche. En particulier quand des mères ont tué des enfants handicapés ou des gens ont tué leurs propres parents grabataires, etc. J'avais relevé plus de 15 verdicts criminels d'acquittement dans lesquels les cours d'assises, c'est-à-dire nous, les jurés, les citoyens, avaient acquitté des individus qui pourtant avaient assumé avoir donné la mort à leurs proches. Donc le risque pénal, il n'est quand même pas important. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, les autorités gouvernementales ont une seule envie, c'est qu'il n'y ait pas de procès. C'est qu'on évite les procès. Ça les embête plus qu'autre chose quand il y a procès, parce que le procès, c'est aussi un exercice démocratique. Et qu'en la matière, on vit dans une ambiance générale où il y a plusieurs lobbies qui ne veulent pas qu'on joue la transparence et la démocratie. Chacun interprétera comme il veut.
Oui, c'est un détail, mais je crois savoir que le livre « Suicide, mode d'emploi », il a été interdit.
Par une loi ultérieure.
Alors, comment ?
Avant 87, c'était pas interdit. On a créé un délit spécial qui s'appelle la provocation publique au suicide par une loi de fin décembre 87, loi qui, et seulement pour l'avenir, empêche toute œuvre qui pourrait provoquer publiquement au suicide. Film, disque, chanson ou livre. Donc le livre n'a pas pu être réédité. Donc si vous l'avez acheté à l'époque, il est collector, il prend de la valeur. On en trouve parfois sous le manteau chez certains bouquinistes, mais il n'y a pas pu avoir de réédition. Et je me suis laissé dire qu'on pouvait le trouver sur Internet, qu'il avait été scanné par certains et qu'il était accessible. Mais ça ne me regarde pas.
L'original a pris d'or.
Oui, bien sûr. Donc, c'est un problème de chronologie dans la loi. Les faits n'étaient pas punissables. On n'a pas pu, à l'époque, ni condamner les auteurs, ni empêcher le bouquin. On a modifié la loi pour interdire la provocation au suicide. Et donc, maintenant, on ne peut plus faire l'équivalent. Ni faire une émission de télé, où vous n'aurez pas pu faire une conférence en disant aujourd'hui, nous faisons une conférence, vive le suicide, suicidez-vous, ça serait susceptible d'être poursuivi pénalement pour provocation publique au suicide.
D'autres questions ?
Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre le laisser mourir et l'obligation de soins que l'on doit à une personne en péril ?
Si, tout à fait. C'est pour ça que le seul cas de justification pénale, c'est le terme en droit, c'est-à-dire c'est un fait justificatif qui met à l'abri les poursuites. Le seul cas de fait justificatif à une non-assistance à personne en péril, c'est 1111-10, premier alinéa, où on doit respecter la volonté de celui-là jusqu'au péril. Mais pour tous les autres, en revanche, les inconscients ou ceux qui ne sont pas en phase terminale, alors là, il n'y a pas de fait justificatif. Et là, on ne pourra pas se cacher derrière quoi que ce soit s'il y a poursuite pour omission de porter secours à personne en péril. Le seul cas, effectivement, c'est celui-là. Justification de l'omission de porter secours. Eh bien, c'est exactement la question piège. On passe dans le régime des directives anticipées et là, la décision doit être prise par le médecin qui tient compte des directives anticipées. Mais, alors, imaginons des scénarios. Un individu conscient, en phase terminale d'un cancer généralisé, dit « je refuse tous les soins, on arrête tout ». D'accord ? On doit respecter. Et il écrit des directives anticipées. Et il dit à sa personne de confiance « je veux qu'on arrête tout ». Il bascule dans l'inconscience. Et on a ce jour-là un médecin qui est complètement contre tout ce dispositif et qui est un médecin extrêmement actif, proactif. Les directives anticipées, il peut les écarter. Ce que dit la personne de confiance, il peut les écarter. Il peut très bien passer un produit de stimulation, je ne suis pas spécialiste, mais redynamiser l'individu et empêcher ce processus, pas l'empêcher, mais le retarder et faire des gestes, y compris des gestes que l'individu refuse. Et l'individu se réveille. Il sort de l'inconscience, il refuse, on est obligé d'arrêter. Mais ça, c'est très classique en droit. Le témoin de Jéhovah, le gréviste de la faim, on ne peut pas le nourrir. Gréviste de la faim, il refuse. Sauf quand il rentre en zone péril vital. Là, péril vital, on lui impose. Alimentation parentérale, degré ou de force, etc. Et puis, on le regonfle. Il sort de la zone de péril vital, il arrache tout, il reprend sa liberté de se mettre en danger. Et on retrouve notre frontière, danger, c'est une liberté pour le majeur. Péril, plus de liberté, obligation de porter secours. D'accord ? C'est le régime juridique français qui fait que, je reviens non plus à la phase terminale, mais au suicidant. En France, quand un suicidant est gravement perturbé par sa pendaison ou sa tentative, etc., ou les médocs, qu'est-ce qu'on fait ? On va le ventiler, on va lui faire un lavage d'estomac, y compris quand on a la certitude qu'il voulait mourir. Et même quand il dit parfois, alors qu'il est à peine sorti des vapes, je recommencerai, et que le jour même, après avoir tenté de se pendre, il tente de se tirer dessus, on va l'opérer, et après il va tenter de se noyer, et après, il y en a comme ça, et les anesthésistes réanimateurs vous diront qu'il y en a qui ont déjà vu 3-4 fois, qui ont une fois tenté de se défenestrer, une fois tenté ceci, et contre leur gré, on va les réanimer. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Ça, c'est de l'ordre de l'éthique. Moi, je vous dis ce qu'est le mécanisme juridique. Après, est-ce qu'il faut que ça change ? Faudrait-il respecter le témoin de Jéhovah jusqu'à la mort ? Faudrait-il respecter le suicidant jusqu'à la mort et ne pas le réanimer ? C'est pas... Moi, je suis que citoyen sur ce terrain-là. Mais sur le plan du droit, je vous dis aujourd'hui, quand il y a péril, on réanime. Un petit micro pour que ça soit enregistré par... les opérateurs.
S'il vous plaît, c'est pour le sujet du suicide là, qui est largement exposé dans tous ces facteurs. Il y a aussi les cas extrêmes où on ne peut pas faire le partage ou la proportion entre ce qui, où la décision et l'acte est décidé de l'intérieur de l'individu, donc quel que soit son ressenti pathologique ou même pathologie mentale, c'est-à-dire l'inconscience, enfin le,
mais je... la perte de discernement et de lucidité.
Oui, voilà, c'est-à-dire le, et puis où, alors je dis l'intérieur, ou lorsqu'il peut y avoir une cause extérieure, où là cette fois-ci c'est la méchanceté, où il y a un facteur déclenchant qui fait que l'individu est fragile. Voilà, c'est le mot que je voulais trouver. L'individu, une extrême fragilité, et où le facteur déclenchant de l'extérieur, bon, ça, on l'entend dans les tribunaux, où le facteur déclenchant ou le comportement opérant, bon, sont des mots de droit. Donc, alors, après, l'enquête pour les proches qui perdent quelqu'un, s'il est possible de faire un jugement ou un diagnostic du partage entre ces deux facteurs. Enfin.
Alors il y a le point de vue, il y a le facteur médical et le facteur juridique. Sur le plan juridique, je laisserai les médecins s'il y en a répondre, mais sur le plan juridique, c'est en fait le problème du consentement. Le suicide est un acte d'auto-agression. Est-il consenti vraiment avec une lucidité suffisante ou pas? C'est le problème du consentement de manière générale. Tout majeur est présumé libre et doté de discernement. C'est la présomption, c'est le point de base. Après, le droit permet de gérer les cas dans lesquels on apporte des éléments montrant qu'il n'est pas libre et discernant. Pas libre et lucide. Il y a d'une part un régime juridique qui est le régime de protection des personnes qui, de manière durable, sont en perte de lucidité avec un besoin de protection. C'est la tutelle. Où on va avoir des individus qui vont être placés sous un régime de protection dans les différents aspects de leur vie, y compris la santé. Où là, la loi est très claire, le majeur sous tutelle, c'est plus lui qui décide. Lui, il donne un avis. Mais c'est le tuteur qui décide des soins. Ou de l'arrêt des soins. Ou de la stratégie thérapeutique, etc. Les tuteurs n'aiment pas trop cette mission. Ils essaient généralement de s'en défausser en disant « Non, moi je m'occupe des biens, du patrimoine, mais je ne m'occupe pas des questions médicales. » Mais la loi est très claire. Les droits du malade sont sous tutelle, s'exercent par le tuteur. Deuxième situation, la situation de l'individu qui est majeur, mais qui est à un moment hors d'état de s'exprimer. Il n'est pas sous tutelle, ça serait le tuteur qui déciderait. Il n'est pas en péril vital. S'il était en péril vital, imminent, c'est le médecin qui déciderait. Mais l'individu, il est majeur et à un moment, il n'est pas bien. Il est perturbé, il est à l'ouest, il est sous un médoc. Peu importe la raison, il est hors d'état de s'exprimer. Alors là, la loi est claire également. Lorsqu'une personne, alors je vous retrouve le texte, c'est 111.4. Lorsqu'une personne majeure est hors d'état de s'exprimer, dit le texte, lorsque la personne est hors d'état de s'exprimer, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence, sans que la personne de confiance, à défaut la famille ou un des proches, ait été consultée. Dans ces cas-là, on a une hiérarchie des personnes à consulter, mais c'est le médecin qui décide. Deuxième chose, le suicide. Est-ce que celui qui se suicide, ou qui tente de se suicider, est sous l'emprise d'une personne extérieure, est victime d'une maladie mentale qui justifie une hospitalisation psychiatrique? Troisième question, est-ce que si ce suicide, ce peut être la résultante d'un harcèlement? Influence extérieure. Oui, c'est vrai. Chacun des consentements que nous exprimons dans notre vie peut être sous l'influence de quelqu'un d'extérieur. Pourquoi est-ce que j'ai passé tel contrat? Pourquoi j'ai accepté de venir à cette conférence sous l'influence de Maurice Gommel, etc. Après, c'est le degré de pression qui joue sur le consentement. Le droit n'interviendra que lorsque ce degré de pression est tel qu'il est prohibé, qu'il est interdit. La pression de l'amitié, de la gentillesse, etc., c'est totalement licite. En revanche, sont illicites menaces, chantage, contraintes, etc. Je vous rassure, hein, Maurice n'a pas été jusque-là pour me faire venir. Donc, la loi gradue la pression, mais la pression affective, etc., est totalement conforme au droit. Le dernier problème, le harcèlement. Écoutez, oui, le harcèlement, je pense aux problèmes qu'on a rencontrés déjà dans certaines entreprises où certains se suicident à la Poste, à France Télécom, etc. C'est une question de fait, c'est-à-dire que en fonction des éléments de l'enquête, de situation, eh bien, éventuellement, on pourra, si on peut démontrer qu'un individu a été poussé au suicide par le fait qu'on lui a pourri la vie dans des conditions telles qu'il a été conduit à cela, alors, pénalement, on pourra éventuellement parler d'homicide par imprudence, D'accord. Mais c'est pas sur cette législation-là que c'est le plus intéressant. C'est pas sur le plan pénal. Harcèlement, homicide par emploi. Là où c'est très intéressant, c'est qu'il a été jugé, et dans l'Est de la France, dans les Vosges en particulier, pour un salarié qui était suicidé dans son entreprise, que ça devait être qualifié d'accident du travail. Puisque ça provenait d'un contremaître qui l'avait harcelé, qui l'avait poussé à bout, qui lui avait pourri la vie, au point qu'il s'est suicidé, ça a été qualifié par les juridictions du travail comme accident du travail. Ce qui, en termes de prestations, etc., est beaucoup plus favorable. Ce qui montre bien que les magistrats sont capables d'intégrer le suicide, y compris dans une démarche de contrainte professionnelle, de harcèlement professionnel, etc., etc. Maintenant, il reste un point que j'avais zappé, la provocation au suicide. Je vous ai dit qu'en 87, la loi était intervenue sur ce point. Le fait de provoquer publiquement au suicide est une infraction pénale, un délit pénal. Mais le fait de provoquer individuellement, si la provocation est suivie des faits, est également, aujourd'hui, pénalement prohibé. Le fait de pousser quelqu'un au suicide individuellement, il faut que ce soit une provocation dirigée, exprimée, etc. Ce n'est pas le fait que vous soyez pénible avec votre épouse et qu'un jour elle se suicide et qu'on puisse dire qu'il l'a poussée parce qu'il était tout le temps dehors, tout le temps en réunion et qu'il courait la gueuse. Non, il faut que ce soit une provocation individualisée, matérialisée et suivie des faits pour qu'on puisse parler de provocation au suicide.
Le conflit, c'est aussi quand il y a le bipolaire ou la conversion.
Mais ça, alors, ça, c'est un grand débat sur le suicide, et il y a des auteurs bien plus intelligents que moi qui ont écrit là-dessus, en particulier Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, sur tous les suicides se valent-ils ? Non, il y a des suicides qui sont liés à une maladie, à une folie, disait-on à l'époque, mais il y a aussi des suicides qui sont la manifestation de la liberté la plus suprême qui soit, qui sont même des suicides héroïques. Et on a tous en tête des drames de la tragédie grecque, ou plus récemment, M. Brossolette pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui se suicide pour ne pas révéler des noms de résistance sous la torture et qui se défenestre à Grenoble. Bref, on a comme ça des suicides qui sont tout sauf des manifestations d'une pathologie mentale. Donc, je pense qu'on parle par facilité de langage du suicide au singulier, alors que ce sont les suicides dont il faudrait parler. Bien évidemment, il y a une dimension psychiatrique chez certains, à l'évidence.
Oui, il me vient une question à l'esprit, à poser au juriste, pendant que nous l'avons encore en présence, qui est la suivante. Lorsque je note toutes les contradictions internes que tu as relevées dans la loi telle qu'elle est, avec en définitive des contradictions entre des situations d'homicide de fait, mais non qualifiables d'homicide. Lorsque je note la diversité de la jurisprudence pour toutes les affaires que tu as citées, plus un acquittement, tu as évoqué les non-lieux, les condamnations avec des années de prison avec sursis, il y a l'acquittement d'Angers, par exemple. Donc quand la jurisprudence balbutie à ce point-là, quand la loi est faite de contradictions, quand un certain nombre de pays aussi civilisés que nous, je crois, ni plus ni moins, tu en as cité quelques-uns, les Pays-Bas, etc., passe à la législation, on se demande effectivement si la seule réponse possible à cette absurdité, quand on rassemble tous les éléments, n'est pas une loi nouvelle, claire et allant au-delà de la loi Leonetti. Voilà ma question, Bruno.
Oui, moi, je suis tout à fait d'avis que, en tout cas, la loi est un bon moyen. La réflexion parlementaire est un bon moyen de régler les problèmes de société. Et en tant que juriste, c'est presque un attachement naturel. Je préfère que les débats de société aient lieu démocratiquement dans l'enceinte du Parlement plutôt que des décisions soient prises par des officines ou par des lobbies ou des groupes d'intérêts, etc., etc. Après, je pense que les lois qui sont des lois qui touchent à ces grandes questions de l'être humain sont des lois qui sont des lois transpartisanes, suprapoliticiennes. Et on le sait, dans l'histoire de France, la loi 67 sur la contraception, la loi 75 sur l'IVG, la loi de 88, la loi Hurier sur l'expérimentation, etc. La loi 2002 sont des lois qui ont fait largement sauter les clivages politiques pour être... La loi Veil est le plus grand exemple. Elle a été soutenue par Jacques Chirac, qui était à l'époque Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, et elle a été combattue par des gens de gauche. Il y avait dans les deux camps politiques de grandes familles des partisans et des opposants. Donc les grandes questions de société et de santé publique dépassent les camps politiques. Et ça, eh bien, en ce moment, dans les années qui viennent de s'écouler et celles qui se profitent peut-être devant nous, c'est compliqué parce que, au contraire, tout est fait pour revenir au clivage, pour nous cliver sur ces questions-là. Et je crains qu'on n'ait pas dans les... En tout cas, on n'a pas eu, à l'époque, 2005 et depuis, on n'a pas eu, je dirais, la maturité de société, et nos politiques n'ont pas eu la maturité, pour être capables de mettre de côté leur logique de chapelle, et pour en parler... L'initiative de Gaëtan Gorce et Nadine Morano avait, à mon avis, de la force à cause de ça. Et à l'époque, le Premier ministre en place, c'était Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin n'était pas loin d'accepter de faire une commission bipolaire, droite-gauche, non pas au sens psychiatrique, mais bipolaire au sens politique, pour avancer sur cette question. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ordres sont venus d'en haut en disant pas question. Pas question. Pour... Alors, on peut se dire les choses. On peut se dire les choses entre nous. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. Parce que l'épouse du président de la République de l'époque est, a de très, très fortes convictions chrétiennes et des liens extrêmement forts avec le Vatican. Et qu'elle a fait prévaloir sur la carrière politique de Jacques Chirac. À très peu de reprises, elle est intervenue pour mettre son veto. Et ça a été là un des cas. Et comme Jacques Chirac ne se préoccupait pas trop de ce dossier-là, il a accepté.
Et ça n'a pas été la même situation avec le dernier vote au Sénat, où il n'y a eu que 15 voix qui manquaient pour que la proposition de loi des sénateurs soit adoptée, et où il y a eu beaucoup de pression, semble-t-il, là aussi, pour qu'en séance plénière, la loi ne soit pas adoptée.
Oui, alors, mais alors qu'elle avait fait, je vous dis, je pense qu'en ce moment, on est dans une période, c'est assez facile de dire ça, mais dans une période qui est compliquée, y compris pour nos parlementaires. Vous avez vu, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant. La loi sur l'Arménie, sur le délit de négation du génocide arménien, etc. On a des gens qui ont été capables de signer la proposition de loi et de voter contre. D'autres qui ont voté pour et qui ont saisi le Conseil constitutionnel, derrière. Ça veut dire qu'on a en ce moment une sorte de schizophrénie des mêmes, et on n'a plus, je dirais que les logiques de parti, et même les parcours de conviction individuelle sont en train de voler en éclats, puisqu'on a ces espèces de valses hésitations. Je crois qu'on est en pleine reconstruction complètement, et il faudra qu'on en sorte pour que les choses puissent éventuellement, de manière apaisée, être envisagées. Mais... Je fais confiance aux Français dès lors qu'on les implique, au travers de la représentation nationale. Il n'y a rien de pire que les décisions qui sont prises dans un coin. Là, c'est la porte ouverte à tous les lobbyings. Après, qu'au Parlement, il y ait des chapelles, des familles de pensée, des députés démocrates chrétiens, des députés communistes, des sénateurs francs-maçons, etc., c'est la démocratie depuis toujours. Mais, je veux dire... Le sénateur Caillavé, qu'on connaît bien, qui était un représentant honoraire du Grand Orient de France, etc., il n'agissait pas à visage découvert. Il était représentant d'une famille politique convictionnelle et il apportait un certain nombre de grands projets de loi, y compris le projet de loi de 76 sur le prélèvement d'organes, qui était combattu par certains grands mandarins français, qui étaient approuvés par d'autres. Il a porté ce projet, il a fait mûrir le Sénat. Et c'est devenu la loi française. Bon. Mais il y avait un travail de préparation, de réflexion, et ensuite une sorte de sérénité qui permettait de passer au-dessus des chapelles partisanes. Si les conditions sont réunies dans les années à venir, il est tout à fait possible qu'un jour la législation change sur ce point. Ça ne me surprendrait pas. Mais aujourd'hui, je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je ne suis pas sûr que ça va être un des pics de débat de la campagne électorale à venir. Ça aurait pu, mais je ne crois pas.
Parce qu'il y a quand même eu des débats en profondeur à l'Assemblée et puis au Sénat avec les différents groupes politiques. Donc c'était quand même très en profondeur.
Oui, mais pour avoir travaillé un petit peu et avoir rencontré deux fois Gaëtan Gors et Nadine Morano, j'ai été surpris de voir que chacun des deux, donc le député PS et la députée MMP, ont eu des démêlés extraordinairement violents avec des gens de leur propre camp. Gaëtan Gors n'a pas été ni même sollicité dans aucune des trois propositions de loi de l'année 2010 sur ce thème-là. Alors qu'il a été véritablement le co-animateur avec Nadine Morano depuis le départ d'un vrai débat de fond. Alors, pourquoi ? Parce que c'est la politique de boutique. Certains se sont dit, oula, il y a des bons sondages, il y a 80% des Français qui sont pour, donc il faut que je fasse ma loi, donc je vais aller encore plus loin que lui. Des gens qui n'y avaient pas réfléchi forcément avant, mais qui montent sur le cheval au galop en disant, je vole au devant de la victoire. Enfin, tout est possible, à droite comme à gauche, sur ces questions-là. À droite comme
sur lequel j'ai déjà réfléchi, enfin, qui est près du cadre du sujet, mais qui est l'objet de la discussion, c'est les limites de l'altérité, de la perception de l'altérité en soi et chez l'autre, et puis l'affect ou l'affectivité et l'affection. C'est-à-dire que si on dit affectivité ou l'affect, et on parle de l'autre côté avec les mêmes racines de mots et l'affection. Alors, ça, c'est,
c'est au cœur
du psychologue ou de l'homme de droit aussi, dans la manière du jugement.
Tout à fait.
Je vous remercie.
Une question derrière vous ?
Oui, c'est au sujet des adolescents, parce que ça prend de plus en plus d'ampleur, ce suicide des adolescents, pour une histoire de fille, pour une histoire de bande qui harcèle un jeune garçon, ou une jeune fille d'ailleurs, pour une histoire de drogue, etc. Est-ce que tout ce que vous avez dit s'applique pour traiter le problème de ces suicides d'adolescents ? Ça doit quand même être un cas particulier, ça, non ? Par rapport à ce que vous avez dit vis-à-vis des adultes ou d'une façon générale.
Alors, sur la question, on va revenir au suicide, mais sur la question de la fin de vie des mineurs, ce qui est très intéressant, il a été fait allusion à des législations étrangères. Aux Pays-Bas, la question de l'euthanasie et la possibilité d'une aide active à la fin de vie est prévue par la loi, y compris pour les mineurs. En Belgique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un processus extrêmement dérogatoire pour les mineurs. Et en France, on est encore très loin de réfléchir à ces questions-là, parce que dans la proposition de loi que j'évoquais tout à l'heure, il est dit « je proposerai que toute personne majeure ». On avance, si on avance, c'est vraiment à tout petit pas sur ces questions-là. Or, la question de la fin de vie des mineurs, elle est extrêmement importante. Parce qu'on a des mineurs en fin de vie. On a des mineurs en soins palliatifs. On a depuis longtemps des soins palliatifs pour les mineurs, etc. Et là, je dirais que c'est moins conflictuel. Ça, c'est le sentiment. C'est une perception que j'ai. J'ai l'impression que c'est moins conflictuel parce que là, on a certes des médecins, comme pour toute fin de vie, mais on a des parents qui sont titulaires de l'autorité parentale. Et la lutte contre la souffrance, contre la douleur, va permettre explicitement ou implicitement de faire en sorte que les agonies, une fois que tout le monde est d'accord, ne durent pas trois semaines, comme on l'a vu, par déshydratation, etc., etc. On va trouver des solutions. Alors reste la question du suicide du mineur. Suicide du mineur, les règles sont exactement les mêmes. Un mineur qui tente de se suicider, c'est un acte qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Un mineur qui réussit à se suicider, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. C'est une catastrophe pour tout le monde, bien évidemment, ses proches, ses frères et sœurs, ses parents. Reste une hypothèse, celle qui a été évoquée tout à l'heure. Si c'est le résultat d'une provocation individuelle au suicide, d'une provocation publique au suicide, ou d'un harcèlement qui pourrait être qualifié d'homicide par imprudence. Mais en dehors de ces cas-là, oui, depuis toujours, il y a des romans célèbres. L'adolescence passe par l'adolescent passe par des phases de spleen, par des phases de premier échec amoureux, de croissance et de difficultés avec son corps, avec ses pulsions, sa libido. Et il y a toujours eu des ados qui se suicident. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'hier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les études d'épidémio, c'est une catastrophe. Mais attention à ne pas tomber dans un fantasme très actuel qui est derrière tout drame. Il y aurait forcément un coupable et donc une procédure à enclencher. Non, ce n'est pas parce qu'il y a suicide que forcément même quelqu'un a commis une faute et encore moins un crime. C'est possible, mais ça n'est pas systématique. Derrière tout drame humain, il n'y a pas forcément un coupable. Attendez, il y a une autre question d'une dame ? Oui ?
J'aimerais profiter de votre expertise là, sur un point très particulier. Vous avez évoqué le cas du majeur sous tutelle, pour lequel le tuteur exerçait à ce moment-là les droits du malade. Qu'en est-il du majeur qui choisit de contracter un mandat de protection future ? Est-ce que ça peut présenter un intérêt dans les situations que nous évoquons ce soir ?
Non, parce que pour répondre sur des points techniques, le mandat de protection future n'a d'intérêt que sur le plan du droit civil. Or, les questions que nous avons évoquées ce soir, d'homicide volontaire, de non-assistance, etc., sont les questions de droit pénal dans lesquelles le mandat de protection future ne joue pas de rôle. Donc, franchement, pas d'intérêt.
Je parlais vraiment par rapport à l'exercice des droits du malade.
Il y a un intérêt en matière d'accès au dossier, peut-être. Il faudrait vérifier dans la loi du 5 mars 2007 ce qu'elle dit sur le mandat, puisque le patient peut procéder par mandataire pour avoir accès aux éléments de son dossier qui sont communicables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout sur le plan.
Il n'est pas plus habilité à faire respecter les directives anticipées, par exemple.
Et surtout, ne confondons pas mandataire ou personne de confiance qui peuvent donner des avis, transmettre un certain nombre de documents, et le tuteur qui, lui, est un représentant légal. Et c'est d'ailleurs pourquoi la loi a prévu dans 1111.4 que lorsqu'il y a un tuteur, il n'y a plus d'autres personnes de confiance qui tiennent, etc. Le tuteur, il est désigné par la justice pour exercer les droits et représenter légalement le malade.
Ma question, c'est est-ce qu'il pouvait y avoir, en dehors des cas de un moyen de se faire représenter.
C'est même pas de se faire représenter, c'est d'être représenté parce que la justice en a décidé ainsi. Et ça pour tous les actes de la vie juridique. Avec une précision importante, j'ai été peut-être un peu rapide tout à l'heure là-dessus, quand on a une tutelle d'un majeur, le tuteur est le représentant légal, bien sûr pour les questions de patrimoine, les questions de livret de caisse d'épargne, de retraite, etc. Mais pas que pour ça. Parce que souvent, les médecins qu'on rencontre nous disent « Oui, mais nous, le tuteur, quand il faut, pour des gestes banals, vraiment du quotidien, faut-il, il y a une grand-mère sous tutelle, est-ce qu'il faut lui faire un vaccin anti-grippe ? On est en septembre, est-ce qu'on veut lui faire le vaccin anti-grippe ? Décision du tuteur, nous dit la loi. On appelle le tuteur qui dit « Mais attendez, je ne m'occupe pas de ça, moi. Moi, je gère les comptes, je gère les papiers, etc. Mais il faut changer le pacemaker du grand-père sous tutelle, mais attendez, c'est vous le médecin, c'est pas moi. Surtout quand c'est un membre de la famille. » C'est un membre de la famille, c'est le fils aîné, c'est son frère, etc. C'est drôlement gênant de prendre ces décisions. Et quand c'est un tuteur non familial, il gère 70 dossiers, il dit « j'y connais rien moi, s'il faut vaccin ou pas, débrouillez-vous ». Juridiquement, le tuteur, il n'est pas uniquement consacré aux questions de pognon et de patrimoine. Il est le représentant légal pour tous les actes juridiques, tous. Le médical, mais aussi pour un mariage. Pour un divorce, accepter un divorce, pour une adoption, pour un changement de nationalité, bref, pour une reconnaissance d'enfant naturel, pour un acte médical, pour changer un pacemaker, il est le représentant légal, parce que la loi l'a prévu. Point. Et si on n'arrive pas, si les médecins n'arrivent pas à avoir des tuteurs qui décident, eh bien il faut le signaler au juge des tutelles, qui prendra les décisions en ce sens, et qui soit fera un rappel à l'ordre, soit reprendra éventuellement sa décision pour désigner quelqu'un d'autre. Une question dans le fond.
Merci. Oui, je trouve un peu paradoxal qu'au stade terminal, si l'on veut réussir son suicide médicalement assisté, il faille en fait rester conscient le plus longtemps possible pour éviter l'opposition éventuelle d'un médecin proactif.
Alors, je dirais même en amont, il faut, tant qu'on est autonome, on fait exactement comme on veut. Quand on n'est plus autonome, tant qu'on est conscient, on peut encore faire respecter sa volonté. Mais quand on n'est ni autonome ni conscient, alors là, on est complètement dépendant des médecins. C'est la loi actuelle.
Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que la décision de mourir du patient conscient est plus forte que la clause de conscience du médecin? Et est-ce que la volonté écrite est plus forte que la volonté orale du patient?
Alors, je vais essayer de vous répondre sans donner l'impression de contourner le problème. Clause de conscience d'abord. La clause de conscience, ça existe, c'est prévu par la loi. La loi, c'est quand il existe un droit du patient à un acte, mais qu'on a voulu préserver la possibilité pour le médecin de se dégager et de ne pas le faire lui-même. C'était le cas pour l'IVG, bien évidemment. La femme que son état place en situation de demander une IVG peut demander et pourra l'avoir, mais nul médecin, nul soignant ne peut être contraint de faire, à condition d'assurer la continuité des soins et d'orienter vers quelqu'un qui fera. On a voulu, c'est une loi d'équilibre, on a voulu respecter le droit des femmes, mais aussi éviter de violer les consciences des infirmières, des sages-femmes, des médecins, etc. D'où la notion de clause de conscience. On l'a reprise en 2001 dans la loi sur la stérilisation contraceptive. Là encore, une femme ou un homme qui souhaite une stérilisation contraceptive peut l'obtenir, mais le soignant peut exciper d'une clause de conscience. Un gynéco peut ne pas vouloir faire de ligature de trompe à une femme qui le demande. Et clause de conscience. Dans les pays dans lesquels il y a une loi qui prévoit l'aide à mourir, bien évidemment, il a été prévu une clause de conscience. Pour ne pas forcer les médecins ou les soignants, les infirmiers qui ne voudraient pas faire ce geste-là, pousser cette seringue-là à le faire. Mais en France, puisqu'on n'a pas encore une législation sur l'aide à mourir, il n'y a pas de clause de conscience. D'accord ? On pourrait se poser la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, un soignant dans un hôpital peut refuser d'aller travailler en soins palliatifs ? On dit, voilà, t'es nommé à tel endroit, etc., etc. Non. Non, puisque dès lors qu'on est agent d'un établissement, on est agent de la personne morale qui représente l'établissement, et ensuite, c'est un des pouvoirs de l'employeur que de vous affecter à tel ou tel service, et on ne peut pas refuser telle ou telle activité. Ça a été jugé récemment pour une affaire d'unité consultation soins ambulatoires en prison, qui dépend d'un hôpital, et une aide-soignante a dit, moi, je ne veux pas soigner des pédophiles, donc j'irai pas. Et il y a eu conflit, et elle s'est fait licencier pour abandon de poste, parce qu'elle a refusé un poste de son hôpital. D'accord. Deuxième question, est-ce que la volonté exprimée par écrit a plus de valeur que par oral? Non. Non, ça n'a pas plus de valeur. Lorsque la loi veut, exige un écrit, elle sait faire. Elle sait faire. Il y a eu 5 lois en France seulement, en droit médical, 5 lois qui ont dit le patient doit signer, histoire de solenniser un petit peu son consentement. Loi 75 sur l'IVG, la femme doit signer un papier. Loi de 76 sur le don d'organes in vivo, si vous voulez donner votre rein, il faut exprimer votre consentement devant un tribunal et signer. Loi de 88, expérimentation sur l'homme. Ceux qui se prêtent à des recherches biomédicales pour tester des nouvelles molécules doivent signer. Loi de 94 sur l'assistance à la procréation, le couple qui recourt à l'assistance à la procréation. Et loi de 2001 sur la stérilisation contraceptive. C'est tout. Ce sont les seuls cas dans lesquels la loi a dit, là, ce sont des actes non curatifs. La loi veut bien que ça se fasse, mais il faut que le patient s'engage par écrit. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que les médecins français contemporains font signer à tour de bras des tas de papiers tout le temps. Dans une prise en charge hospitalière aujourd'hui, un patient, on lui tend en moyenne 20 papiers à signer. D'accord ? Aucun n'est prévu par la loi. Si on n'est pas dans une IVG, un prélèvement d'organes, une expérimentation, une assistance à la procréation ou une stérilisation, aucun de ces papiers n'est indispensable. Mais on a là un problème de décalage entre le droit tel qu'il fonctionne et le droit tel que certains se le représentent. Les médecins français, les patients sont quelque part aussi co-responsables. À force de regarder les séries américaines où effectivement on passe son temps à signer du papier au lit du malade, etc., ben, prennent les mêmes postures et font les mêmes choses, y compris quand ça ne sert à rien. Pour revenir, non, la volonté exprimée par écrit n'a pas plus de valeur qu'exprimée par oral en droit français.
Alors, comme nous avons atteint...
Allez, une petite dernière, là, de madame.
Une dernière question.
Je suis un peu surprise de toutes les contradictions dont vous venez de nous exposer, mais il y en a une qui m'interpelle sérieusement. On est un fonctionnaire de l'État, donc on ne peut pas refuser d'aller en poste dans un établissement de soins palliatifs. Mmh. Un malade refuse, puisqu'il est en phase terminale et qu'il est conscient, refuse d'être soigné. La médecine se retire. Et là, on ne peut pas obliger le médecin à au moins faire les soins que l'on fait en soins palliatifs, c'est-à-dire le soulager. Il ne peut pas être poursuivi par la loi si, puisque le malade a dit « je ne veux plus être soigné puisque je vais mourir, mais je veux quand même être soulagé », on ne peut pas obliger un médecin à le faire.
C'est le problème de l'affaire Pierra, c'est... Le travail sur la qualité de l'agonie.
Oui, mais alors,
sur la qualité de l'agonie, on a déjà fait un gros progrès en 15 ans en France avec le travail sur la douleur. Mais oui, le niveau suivant, c'est le niveau du travail sur la qualité médicale de la toute fin de vie et du passage de la vie à la mort, de vie à trépas. Parce que soulager la douleur, ok, mais ça ne suffit pas à répondre à l'ensemble des problématiques.
Il y a les personnes qui s'étouffent.
Le problème de Diane Preti, on n'en a pas parlé, j'en dis un mot parce que ça va peut-être rebondir sur ce que vous avez dit. Diane Preti, c'est anglaise, en 2002, qui était atteinte d'une maladie pulmonaire extrêmement grave, qui savait que de cette maladie, on mourait par étouffement. C'est vous qui m'y faites penser. Et elle avait une peur panique de mourir étouffée, parce qu'elle avait déjà eu des crises, etc. Ceux qui sont asthmatiques savent ce que ça signifie. Et donc, elle a demandé à la justice anglaise que son mari puisse, au moment où elle en aurait décidé, lui injecter un produit mortel pour qu'elle meure apaisée dans son sommeil et pas d'étouffement, dans des souffrances atroces. La justice anglaise lui a répondu que ce n'était pas possible. Ça aurait été le même cas en France. Et donc, elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en avril 2002 pour faire condamner l'Angleterre en disant que l'Angleterre, quelque part, lui imposait un traitement inhumain et dégradant en refusant à son mari la possibilité de lui donner cette mort qu'elle souhaitait. La Cour européenne des droits de l'homme a refusé de condamner l'Angleterre. Comme sur chacun de ces points qui touchent à des questions sociétales essentielles, la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne peut faire qu'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, dit, écoutez, moi, je n'ai pas dans ma convention d'articles qui disent il faut une euthanasie dans tel pays ou il n'en faut pas. Chaque pays garde sa souveraineté. Les Pays-Bas, la Belgique ont légiféré, très bien. Ce n'est pas contraire à la Convention. L'Angleterre, non. Je ne peux pas la condamner pour ça. Et donc... elle est rentrée en Angleterre et elle est morte 11 jours après la décision du 29 avril 2002. Elle est morte comment ? Étouffée. Parce que on n'a pas pu faire autre chose qu'à l'époque lui dire « On a de quoi soulager vos douleurs. Vous voulez plus de soins, on ne vous soigne plus pour votre maladie. On peut vous faire des soins et vous soulager vos douleurs. Mais voilà, elle est morte de ce qu'elle voulait éviter et dans des souffrances. Et j'imagine... pour l'entourage, que ça a dû être abominable. C'est ce que j'appelle le travail de réflexion encore en cours sur la qualité de l'agonie.
Oui, mais c'est quand même un petit peu antinomique, parce que quand même, on a quand même encore besoin de soins. On est dans un risque vital imminent. On a besoin d'un certain soin. Et parce qu'on refuse certains traitements, on vous dit, il n'y en aura plus du tout.
Oui,
c'est un peu scandaleux, moi, je trouve.
C'est là que Leonetti a eu cette formule, dans l'affaire Pierra, qui est mort en 6 jours, dans des conditions atroces. C'est là que les médecins avaient décampé en disant, vous ne voulez plus nos soins, donc vous n'aurez plus rien du tout, et vous mourrez de manière abominable. Et c'est là qu'il a dit, le laisser mourir ne veut pas dire le laisser crever. Il aurait fallu, il ne voulait plus de soins, d'accord, mais gérer, et les médecins savent, il y a des produits, bien des sûr. Techniques, etc. Il aurait fallu gérer cette toute fin de vie, avec d'ailleurs le fait que, on n'a pas parlé du principe du double effet, mais que si les produits qu'on utilise avaient comme effet secondaire d'accélérer la mort, ça ne pose aucun problème juridique. Et ça, depuis toujours. On sait très bien que... mais c'est le problème de tout médicament. On vous soigne votre cœur défaillant, mais attention, ça peut entraîner une défaillance des reins et de ceci, et vous risquez de mourir un an plus tôt. Bon, c'est le double effet. Bon, bah, ça fait partie historiquement des choses licites en France. Ça ne pose pas de problème. Encore faut-il qu'il y ait une vraie réflexion médicale sur ce point-là, puis pas qu'une réflexion. Ensuite, une formation, et puis une mise à disposition de produits, etc. etc.
Parce qu'au niveau des médecins, de la formation des médecins à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se fait ?
Dans la loi de 99, il y a tout un département formation, et les médecins, autant on pouvait dire là, sur ce point-là qu'il y avait un gros retard en France, à la fin du XXe siècle, sur la question de la douleur et des soins palliatifs. On n'a peut-être pas complètement comblé ce retard sur les pays voisins, mais enfin, on a fait d'énormes progrès. Après, maintenant, c'est un problème tout simplement de moyens. De moyens en termes de place, en termes de lit, en termes de formation, en termes de motivation.
Mais il faut être sérieux. Si on dit qu'on refuse l'euthanasie, alors il faut qu'on ait suffisamment de soins palliatifs. Or, quand on est à Poitiers, c'est une équipe mobile.
Je suis d'accord avec vous.
J'ai un exemple très récent de quelqu'un qui est mort d'ailleurs. On n'a pas demandé l'équipe mobile. Il a fallu faire des... Mais se fâcher contre le service.
C'est une hypocrisie de plus d'un ensemble de nos dirigeants qui nous disent « Développer les soins palliatifs, on n'aura plus de demande d'euthanasie », ce qui se trouve être faux. Mais parce que je sens que Maurice va couper les micros, je voulais juste vous donner une citation pour finir. Et elle me semble extrêmement éclairante pour notre débat de ce soir. C'est un monsieur qui est indien, qui s'appelle Shafiq Kesiaji, qui a écrit « Le roi, le sage et le bouffon » en 98. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit « La sagesse, c'est laisser croître ce qui naît, savourer ce qui est mûr et laisser aller ce qui est mort. » Merci pour votre patience, pour votre accueil.
Et merci à toi.
Je ne voulais pas couper le micro, mais nous avons atteint, dans le cadre de nos conventions avec l'espace Mendes France, les limites...